BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Guillaume Paul.
18h, il sera 18h dans une minute. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Beaucoup de choses encore à vous raconter ce soir dans l'actualité économique et financière. D'abord, alors c'est un petit peu l'histoire du jour. Apparemment, il y a beaucoup de remue-ménage depuis quelques heures du côté du Club Med, avec de grosses tensions apparemment entre le groupe et son actionnaire chinois. Vous savez, le fameux groupe Fosun. On va vous raconter ça dans un instant avec les infos de Mathieu Pechberti. Sinon, dans l'actualité, il y a en ce moment même la fin de la visite d'Emmanuel Macron en Allemagne. Il est à Dresde, en ce moment en ex-RDA. Visite qui intervient, bien sûr, ça n'a échappé à personne, à 15 jours des élections européennes. Et puis cette nouvelle réforme de l'assurance chômage qu'a détaillé hier soir Gabriel Attal à la télévision. Est-ce que ce nouveau Ternovis va, entre autres mesures, contribuer à nous ramener vers le plein emploi à horizon 2027? On parlera de tout ça, bien sûr, avec nos experts, entre autres, qui débarquent dès 18h30 sur BFM Business. En attendant, 18h15, c'est Frédéric Joussel, enfin, le cofondateur de WebHelp, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon dans la grande interview. Voilà le programme, non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc je vous disais, il se passe des choses du côté du Club Med. D'après nos informations, le numéro 2 du groupe, qui s'appelle Michel Wolfowski, a démissionné juste avant le week-end. Conséquence de ce départ, le patron Henri Giscard d'Estaing va se retrouver un peu plus seul désormais face à Fosun, l'actionnaire chinois à 100%. Mathieu Pechberti nous raconte tout ça.
La crise couvait depuis plusieurs mois, mais elle se révèle désormais au grand jour. La démission du bras droit d'Henri Giscard d'Estaing illustre le bras de fer entre le Club Med et son propriétaire Fosun. Au début de l'année, le géant chinois avait déjà parachuté son directeur financier au même poste au Club Med pour surveiller les finances du groupe. Alors que le patron de Fosun préside déjà le groupe français, l'emblématique patron du club, Henri Giscard d'Estaing, est désormais très encadré. Il espérait pourtant vendre 30% du capital à la famille Moos pour desserrer l'emprise de son actionnaire, mais les Suisses, déjà propriétaires de Lacoste, voulaient racheter la totalité du groupe de tourisme. Fosun a finalement refusé, bien qu'il ait besoin de cash pour rembourser sa lourde dette de près de 40 milliards d'euros. Désormais, les dirigeants du Club Med craignent que le groupe chinois ne puise dans la trésorerie, alors qu'il reverse déjà environ 80 millions d'euros de dividendes chaque année.
Voilà, du remue-ménage donc du côté du Club Med. Si le sujet vous intéresse, vous retrouvez toutes les infos, plus d'autres infos sur ce sujet, les infos de Mathieu Pechberti sur notre site internet bfmbusiness.com. 18h02, je vous le disais, Emmanuel Macron est donc en Allemagne depuis hier. Et jusqu'à demain, visite d'État qui intervient, ça n'a échappé à personne, bien sûr, à 15 jours des élections européennes. Bonsoir Thomas Asportas.
Bonsoir Guillaume.
La France et l'Allemagne veulent fixer l'agenda stratégique des 5 prochaines années en Europe, Thomas. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les deux pays partagent beaucoup d'objectifs. En revanche, en ce qui concerne les moyens de les atteindre, là, il y a de grosses divergences, malgré tout.
Oui, toute la difficulté, effectivement, pour la France et l'Allemagne est de passer de la parole aux actes sur des sujets très nombreux et très compliqués, j'allais même dire existentiels. Il s'agit de réarmer l'Europe face au retour de la guerre. Il s'agit d'accélérer la force, le dynamisme de l'Europe dans la révolution technologique et climatique, ou encore de renforcer la souveraineté industrielle. Sur tous ces grands objectifs, vous l'avez dit, la France et l'Allemagne sont d'accord. Elles le font savoir depuis hier à grand renfort de grands discours des présidents français et allemands. Mais quand il s'agit de passer à la pratique, c'est là qu'on voit les divisions ressurgir et apparaître. Pour financer l'innovation et la décarbonation, par exemple, la France appelle à doubler l'investissement public en Europe. D'après Paris et Berlin, les 27 devraient investir 735 milliards d'euros par an pour financer ces deux révolutions. La France pousse pour un nouvel endettement en commun, comme on l'a fait pendant la crise du Covid, mais l'Allemagne ne veut pas en entendre parler. Il ne s'agit pas de refaire l'exercice une deuxième fois. Elle est aussi très réservée sur l'idée à nouveau française d'une augmentation massive du budget européen, de peur de creuser la dette de beaucoup d'États membres. Pour financer l'IA et le climat, on sait aussi qu'il va falloir beaucoup d'argent privé, l'argent public ne va pas suffire. Là aussi, les deux pays sont d'accord pour dire qu'il faut faire l'union des marchés de capitaux, mais là aussi, dans la pratique, l'Allemagne n'est pas vraiment emballée par l'idée française d'un produit d'épargne européen. Et enfin, encore un dernier point d'achoppement, la question de l'énergie, question clé évidemment de compétitivité. Là aussi, les deux pays veulent décarboner, veulent une énergie compétitive, bon marché, mais dans les faits, presque tous les opposent, à commencer bien sûr par le rôle du nucléaire et son financement par la Banque européenne d'investissement. Donc on voit bien que les deux pays ont beaucoup de sujets à régler, vont devoir essayer de trouver des compromis, de rapprocher leurs positions, et ça va être tout l'enjeu du Conseil des ministres franco-allemand qui va se tenir demain après-midi, qui va être exclusivement consacré à la question de la compétitivité européenne.
Ouais, on a les mêmes ambitions, mais pas forcément la même façon d'y parvenir. Donc on n'a pas le même tempo politique.
Olaf Scholz
qui doit maintenir une coalition un peu brinque-ballante, et puis Emmanuel Macron qui n'a pas à se représenter.
Tout ouais. Ça joue,
merci,
ça joue aussi, bien sûr.
Merci beaucoup Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Tiens, puisqu'on parle de compétitivité, on a appris aujourd'hui que la Chine avait injecté l'équivalent de 40 milliards de dollars dans un fonds d'investissement pour redonner un coup de fouet à son industrie des semi-conducteurs et la faire monter en gamme. On sait à quel point la rivalité est forte sur ce terrain avec les Américains. Ces dernières années, les Américains, vous savez, ont régulièrement adopté des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine, précisément. Et puis alors, ça a été une bonne journée, très bonne journée même, disons-le comme ça, pour Elon Musk. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume.
Il a annoncé qu'il avait réussi à lever 6 milliards de dollars nouveaux pour sa start-up dédiée à l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on prononce, je supposais la
XAI.
XAI.
Alors qu'il ne faut pas confondre avec X, l'ex-Twitter.
Voilà, c'est ça.
C'est la même famille, mais voilà, c'est une autre société.
6 milliards, ça va suffire pour rattraper les petits concurrents ou pas, Frédéric?
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a encore quelques mois, il disait non, pour Grok, ouais, avec un K, parce qu'il y a aussi une IA qui s'appelle Grok avec un Q, qui existe mais qui n'est pas de lui. Grok avec un K. Il y a quelques mois, il disait non, moi j'aurais pas besoin de lever de fonds, c'est bon, on va la développer, tout ira très bien. Et puis là, à la vitesse à laquelle vont ces innovations, il se rend compte qu'il est quand même obligé de lever 6 milliards de dollars. Ça valorise déjà son entreprise XAI, qui était déjà valorisée aux alentours de 18 milliards de dollars. Elle est valorisée 24 milliards de dollars. Alors au générique, il y a les grands investisseurs du moment, hein, les Sequoia Capital, Andreessen, ouais, Horowitz. Il y a même le prince Al Walid Ben Talal, ouais, voilà, d'Arabie Saoudite. Voilà, il a réuni tous ces gens-là. Commercialiser les premières applications, c'est investir davantage dans la R&D, c'est du recrutement aussi, et puis c'est acheter de la puissance calcul, parce qu'il se rend compte que là aujourd'hui, enfin il le savait déjà, mais il faut avoir beaucoup plus, ouais, de composants, beaucoup plus de microprocesseurs. Donc il s'engage, alors on va dire c'est l'équivalent, hein, acheter l'équivalent de 100 000 GPU Nvidia, qui sont ces puces ultra puissantes dédiées à l'IA. Je dis l'équivalent parce que Nvidia est en train de travailler sur la nouvelle version, donc vous imaginez bien que Elon Musk va pas dire donnez-moi l'ancienne version, je m'en contenterai. Non, il veut aussi la nouvelle version. Et puis il parle même du développement d'un super calculateur, hein, là-dessus, ouais, il part en concurrence derrière tout le monde. Alors il s'associera avec Oracle est un poids lourd, hein, du logiciel, ouais, du cloud, et puis pour faire tourner. Et puis alors il veut évidemment, parce que c'est ça Musk, hein, c'est que emmêler un peu tout ça, combiner un peu tout ça, c'est utiliser toutes les datas de X Twitter pour entraîner son moteur XAI, de XAI Grok, voilà, pour faire des résumés d'actualité avec tout ce qu'on entend sur Twitter, tous les commentaires.
Alors,
c'est un peu son idée.
Il a paradé aujourd'hui sur cette levée de fonds, et on a vu qu'il s'était pris un tacle sur X, justement, de la part de Yann LeCun, le, oui, monsieur Meta, le monsieur intelligence artificielle de Meta.
Alors, oui,
il a un peu cherché apparemment.
Yann LeCun est toujours, il est un peu vexé de ne pas avoir été le premier à parler de cette IA générative. Or, quand il voit OpenAI et Musk s'exprimer, il faut savoir que la communauté de l'intelligence artificielle, Musk, il dit, c'est pas un expert, c'est pas quelqu'un de notre, ouais, domaine. Hein. Il investit, il est génial, c'est un entrepreneur, un visionnaire, tout ça, mais c'est pas un expert IA. Et alors, ce que dit Yann LeCun, parce que justement, Elon Musk, il a besoin de quoi? Il a besoin, on l'a dit, d'argent, il a besoin de processeurs, ouais, de puissance, ouais, calcul, ouais, de données, mais aussi de recruter des gens. Et bien là, Yann LeCun dit, alors si vous voulez aller chez XAI, eh bien si vous voulez que le travail soit résolu l'année prochaine, sans pression, ben allez-y. Si vous voulez travailler avec quelqu'un qui prétend que ce sur quoi vous travaillerez tuera tout le monde et doit être arrêté ou suspendu, bien allez-y. Et qui prétend vouloir une poursuite maximale rigoureuse de la vérité, mais de bide des théories du complot.
Mais
tout
il
temps.
A allumé tout le monde vendredi dernier à Vive, jeudi,
ah,
oui, dernier à
Vive. Ah, mais il a dit OpenAI, donc, et, voilà, et Gemini, c'est les meilleurs sur l'IA en ce moment. Par contre, ils vous mentent. Voilà.
Voilà. C'était clair. Rideau. Donc, il l'a un peu cherché sur ce coup-là, finalement.
Toujours. De toute façon, c'est Elon Musk.
Mais Yann LeCun, on attendait peut-être un petit peu moins sur une réponse aussi.
Ah, il aime bien le chatouiller,
ah,
un
bien
peu.
Il aime bien les annonces. Oui. Bon, c'est réussi en tout cas. Merci beaucoup, Frédéric Simotel, avec nous sur BFM Business. 18h08. On va sur les marchés. Tout de suite, retrouver Aude Kersulec depuis Euronext à la Défense. Bonsoir, Aude. On a terminé dans le vert ce soir.
Bonsoir.
Pour débuter la semaine à Paris.
Oui, après deux semaines de baisse pour le CAC 40, on retrouve le vert pour cette séance, plus 0,46%. On s'est même payé le luxe de terminer au plus haut de la séance, 8132 points. Alors pourtant, on a dû faire aujourd'hui sans les Américains, parce qu'il n'y a pas de séance américaine à cause du Memorial Day, et aussi sans marché londonien d'ailleurs, un autre jour férié aussi au Royaume-Uni. Donc les marchés européens qui ont tout de même réussi à inscrire une hausse, malgré quand même très peu de volume, 1,6 milliard échangés sur le CAC 40, très peu d'initiatives et d'ailleurs très peu de variations. Un secteur qui s'est démarqué, tiens, c'est le leasing automobile ALD, c'est sur le SBF 120. C'est une entreprise qui fait donc du leasing, plus 5,7%, et sa maison mère Société Générale qui prenait 2,2% en tête du CAC, sur une annonce aussi, enfin une information que croient avoir les Échos sur une co-entreprise qui ne concerne pas pourtant Société Générale, mais Renault et Santander. En tout cas, ça booste quand même tout un secteur. Et puis Alstom, avec la concrétisation du plan de désendettement, annonce lors des résultats financiers. C'est finalement un soulagement que ça se passe comme prévu. C'est pour ça que la valeur prend 5,5% ce soir en clôture. Donc Alstom, qui était troisième du SBF. Voilà donc le CAC 40 qui termine à 8132 points dans une actualité financière assez calme.
Merci beaucoup, Aude Karsulek, donc à Euronext pour BFM Business. 18h09, Frédéric Jousset, cofondateur de WebHelp, président fondateur d'Art Explora et donc l'invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. Bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir est je sais pas très bien du reste ce qu'il est. Il est philanthrope, il est entrepreneur. Il était dans l'art, il est maintenant dans le BTP. Bonsoir Frédéric Jousset.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être avec nous, cofondateur de WebHelp. On s'en souvient que vous avez vendu. Vous avez vendu ça pour 4 milliards, ça va? Vous avez
4,8 milliards,
oui, c'est important.
Je n'ai pas touché 4 milliards 8.
Je m'en contenterai. Que vous avez vendu donc à l'américain Concentrix. Vous êtes président du fonds d'investissement Arnova. C'est là où on vous a vu ressurgir dans l'art. Vous êtes devenu un businessman de l'art. Vous avez créé le Hangar Y aussi, qui est devenu un lieu mythique près de Paris, à Meudon, où il y a, je crois, vous avez déjà 200 000 visiteurs. Vous avez créé le bateau, le plus grand catamaran du monde, Art Explorer, qui va relier 30 ports en Méditerranée et qui arrive la semaine prochaine à Marseille. Là, vous êtes, en fait, c'est un bateau-musée. Vous allez tout nous raconter. D'abord, l'actualité, c'est que vous venez de racheter une entreprise dans le BTP, un des leaders dans l'étanchéité, justement, du cours Philippe Châtrier à Roland-Garros, le SMAC. Juste une question avant. C'est quoi la logique, Frédéric, de tout ça?
C'est une logique d'investissement, de faire fructifier son capital. Effectivement, après la vente de WebHelp, j'ai des liquidités à placer, à investir. C'est une logique de diversification. Et puis, le prix d'entrée était très raisonnable. Et c'est une très belle entreprise parce qu'elle existe depuis 140 ans.
Ouais. Maintenant, ça, c'était un LBO, c'était un partenaire à fond, mais avant, elle habitait au groupe Bouygues. Juste une question, j'ai un peu listé, on va rentrer dans le détail, toutes les entreprises dans lesquelles, parce qu'il y a aussi Duc de Gascogne, vous êtes aussi dans l'agroalimentaire. C'est drôle que, ayant été le fondateur de WebHelp, donc c'est devenu, là, je crois, le troisième groupe européen de relations clients, vous n'avez pas été tenté d'investir dans l'intelligence artificielle. Je ne sais pas, moi, je vous aurais attendu chez Mistral AI, par exemple, aux côtés d'Arthur Munch.
Non, alors WebHelp, on est maintenant le co-leader mondial avec Téléperformance. Mmh. Effectivement, on a fait le constat que l'intelligence artificielle allait menacer une partie des métiers de la relation client et qu'il fallait investir énormément. Et que même si l'entreprise faisait 3 milliards, il fallait fusionner avec un plus gros que nous pour former un groupe de 10 milliards maintenant et pouvoir supporter ces investissements qui chiffrent en centaines de millions.
Oui, donc vous estimez en fait que les investissements français sont pas... le ticket n'est pas assez élevé, quoi.
Je pense que le ticket doit être nécessairement élevé pour percer. Après, le problème de la valorisation, c'est qu'il y a un effet de bulle dans l'intelligence artificielle qui me rappelle les débuts dans l'e-commerce il y a 25 ans quand on a démarré WebHelp. Et que je pense que c'est presque un peu trop tard pour investir parce qu'aujourd'hui, on paye très 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 cher ces sociétés.
Oui, très 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 cher. Oui, mais en même temps, ça vaudra... Encore plus cher, non ?
Bah, certaines vont être comme toujours. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est le prix d'entrée, le prix de sortie. Tout le monde ne va pas toucher. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des secteurs, notamment traditionnels. Vous parliez du BTP, dont les valorisations sont, au contraire, très basses.
Ouais.
Et donc, qui, pour moi, offrent des perspectives de rentabilité meilleures.
Alors, à travers votre compagnie, parce que vous avez plusieurs holdings, plusieurs fonds, hein, on va accompagner, commencer par la compagnie financière CFJ. Vous avez racheté SMAC, c'est-à-dire vous avez repris la totale, non, une grosse partie, la majorité, c'est ça?
J'ai racheté exactement 75% et les 25% appartiennent au management qui ont racheté la société de fait avec moi.
Et pourquoi vous vous lancez, pourquoi ça, pourquoi ce, vous cherchez quoi? Vous cherchez des leaders dans des niches spécifiques, que ce soit dans le BTP ou dans l'agroalimentaire?
Alors la conviction, la thèse derrière SMAC est très simple, c'est que l'essentiel du patrimoine immobilier français, même ouest européen, a été construit avant 2000, c'est-à-dire avant les premières réglementations contraignantes sur le plan énergétique. Et que de même qu'il y a un énorme travail pour migrer le parc automobile, il va y avoir un énorme travail pour migrer le parc immobilier sur des matériaux plus performants sur le plan de l'environnement, et que SMAC est un acteur clé de la transition énergétique, parce que c'est effectivement le bardage, les façades, l'isolation de toiture qui sont le nœud gordien de la performance énergétique des bâtiments. Donc je pense qu'il y a du travail pour les 40 prochaines années.
Oui, et en plus vous avez des ambitions, parce qu'aujourd'hui ça fait combien de chiffre d'affaires?
500 millions de chiffre d'affaires et 2300 personnes, et d'ailleurs c'est un appel, on recrute, SMAC prévoit de recruter plus de 300 personnes dans les deux ans à venir.
Et votre objectif c'est quoi?
De doubler la taille du groupe dans les 5 ans à venir.
Oui, c'est ça, donc ça atteint un milliard, voilà. Juste pour voir si j'avais bien compris. Oui, un milliard ça ferait quand même un très gros ETI, parce que c'est considéré déjà comme une ETI.
C'est une très belle ETI, oui.
Ça, en fait l'innovation est très importante, j'imagine.
L'innovation, parce qu'il y a sans cesse des nouveaux matériaux qui sont plus performants pour l'isolation, plus légers, plus faciles à poser. Donc effectivement, c'est un enjeu important.
Vous avez fait, donc je le disais, le cours de Philippe Châtrier. Vous avez travaillé pour le Grand Paris. C'est quoi vos prochains gros chantiers pour SMAC?
Il y a beaucoup de chantiers aussi dans l'industrie nucléaire, dans l'industrie de la défense, parce que on a des enjeux de rénovation très importants. Donc en fait, la moitié du chiffre d'affaires de SMAC, c'est les travaux neufs, et l'autre moitié, c'est la rénovation, comme je vous disais, le parc. Donc il y a un carnet de commandes qui est rempli pour vraiment plusieurs décennies.
Tout ce que vous avez aussi à côté, je disais Duc de Gascogne, mais aussi Quadra, il y a d'autres entreprises. Là, la logique, c'est de créer un groupe dans l'agroalimentaire, ou alors chacun a sa spécificité et s'inscrit dans votre organigramme personnel, Frédéric Jousset?
Il y a toujours l'idée d'avoir un impact positif. Donc, SMAC, c'est sur la performance énergétique des bâtiments, qui sont le deuxième émetteur de CO2 après les transports. Dans Quaterra, la logique, c'est le bien manger. C'est le circuit court, c'est l'agriculture biologique. On sait que 9% des terres biologiques seulement en France, alors qu'on a un engagement européen de 20%. Et donc, forcément, l'agriculture biologique va se développer, et Quaterra est un des acteurs clés, avec une cinquantaine de millions de chiffre d'affaires, qui a déjà doublé de taille depuis 2 ans et qui est en forte croissance.
Oui. Vous avez commencé, mais une fois que vous avez touché le jackpot, enfin le jackpot, c'est vous qui avez créé, co-créé Webelt, vous êtes lancé plutôt dans l'art au début. Vous êtes devenu un philanthrope, un mécène. C'était un besoin, quelque part, de se faire pardonner, de devenir milliardaire?
Pas du tout, parce que j'ai commencé dans l'art bien avant qu'on ait vendu Webel. Ma mère était conservateur général à Beaubourg, mon père était président de l'école de musique, Alfred Cortot. Donc l'art est une passion très ancienne. J'ai commencé en 2005 en étant mécène du Louvre à 35 ans. Et après j'ai continué, j'étais président de l'école.
Vous étiez le plus grand mécène du Louvre, du reste.
Oui, après j'étais président de l'école des Beaux-Arts de Paris, président du conseil d'administration. Et puis j'ai racheté Beaux-Arts Magazine en 2016, que j'ai diversifié. Donc effectivement, mon ancrage et mon engagement dans l'art maintenant date de 2 décennies.
Oui. Comment, j'en profite parce que les mécènes dans l'art, il y a les grandes familles qu'on connaît, traditionnelles, il y a Bernard Arnault, il y avait les David Veil, etc. C'est rare de voir un entrepreneur qui a gagné beaucoup d'argent, même s'il a une culture personnelle familiale, enfin une culture familiale assez forte, qui investisse autant que vous dans la culture. Est-ce que ça existe beaucoup aux États-Unis? C'est parce qu'un système fiscal est insuffisant? Pourquoi, à votre avis?
Alors, on a les lois fiscales les plus généreuses en matière de mécénat. Pour le coup, la loi Aragon de 2003, avec la réduction fiscale de 60% jusqu'à 2 millions et 40% au-delà, est pour les entreprises comme pour les particuliers extrêmement favorable. Non, je pense que l'investissement mécénal dans l'art, il est assez traditionnel. Donc, effectivement, beaucoup de grandes familles sont donateurs des grands musées, ou quand elles ont les moyens, construisent leurs grands musées.
Oui.
Moi, je suis suis sur une thématique qui est un peu différente et je crois assez originale, qui est effectivement cette notion d'accès à la culture. Donc c'est vraiment d'aider les institutions à aller chercher des nouveaux publics, à aller dans les territoires, à aller dans des couches de la population qui ne s'intéressent pas à l'art. On a beaucoup parlé de la fracture sociale, on a parlé de la fracture digitale, mais il y a une fracture culturelle.
Énorme.
Il y a en gros un Français sur trois seulement qui va chaque année dans un musée, il y a un Français sur trois qui va sporadiquement et un Français sur trois jamais. 70% des Français n'écouteront jamais un concert de musique classique de leur vie. Donc il y a des genres même qui sont en train de mourir et c'est ça qu'on essaie de combattre.
Oui. Alors, vous lancez, c'est une initiative que je trouve assez incroyable, donc un bateau, enfin c'est un musée flottant en fait, c'est Art Explorer et en fait vous voulez qu'il relie 30 ports, je le disais tout à l'heure, 30 ports de la Méditerranée, le 6 juin vous serez à Marseille. C'est quoi l'idée? Enfin, expliquez-nous comment ça peut marcher, parce que vous faites aussi appel à des bénévoles, expliquez-nous comment vous organisez.
L'idée est toute simple, l'idée c'est encore une fois d'attirer des nouveaux publics au monde de l'art et de la culture. Et de combattre l'idée que l'art, c'est loin, c'est peut-être ennuyeux et c'est cher. Donc tout ce qu'on fait est gratuit et on vient taper à la porte des gens là où ils vivent. Il se trouve que 60% de la population mondiale habite à moins de 60 minutes des côtes. Donc les grandes villes sont souvent des grands ports. Et il y a la deuxième chose qui m'a frappé, c'est la fascination des gens pour les grands bateaux, notamment les grands bateaux à voile, la route du Rhum, 2 millions de personnes dans le port au moment du départ, l'invincible armada à Rouen, donc le public est là et l'intérêt du public pour les grands bateaux est là. Et donc l'idée de créer un bateau musée, c'est-à-dire un bateau qui propose une expérience culturelle gratuite, qui va de port en port et qui est accompagné d'un festival, donc devant, à quai, vous avez des pavillons de musique, d'architecture, vous avez un pavillon central, comme la Biennale de Venise, où on a de l'art physique. Et à bord du bateau, c'est de l'art digital, donc en partenariat avec le Louvre, on a créé un écran immersif de 160 mètres carrés qui est à bord du bateau et qui permet de projeter ce film qui retrace la représentation de la femme dans l'Antiquité, dans l'histoire de l'art.
Mais il n'y a pas de... C'est osé de représenter la femme, surtout quoi, dans les contours de la Méditerranée. Il n'y a pas d'œuvre d'art.
À bord du bateau, il n'y a pas d'œuvre d'art. À bord du bateau, ce serait trop compliqué pour les questions d'assurance, de salinité, de tangage. Donc, les œuvres d'art physiques sont dans le village qui, lui, se déplace par la route.
Et par exemple, à Marseille, il y aura quoi? Comme œuvre d'art, il n'y aura pas la Joconde, mais il y aura quoi?
Alors, à Marseille, vous avez toute une exposition sur le thème qui s'appelle Sous l'azur. Et donc, vous avez des œuvres d'artistes comme Michelangelo Pistoletto, qui est un sommet de l'art italien qui a maintenant 80 ans. Vous avez des artistes très installés comme Jean-Marie Apriou, comme Marguerite Humeau. Donc, vous avez de l'art multidisciplinaire parce que vous avez aussi de la musique, de la danse, de la performance, une exposition de photographie. Donc, vous y allez vraiment pour tous les goûts et tous les publics.
Donc, vous allez inviter Jules, hein, puisque vous étiez, tiens, du reste pour l'arrivée de la flamme olympique. Certains ont contesté le fait que Jules soit celui qui allume le chaudron magique. Vous allez le faire venir, comme ça il va attirer les foules dans Art Explorer.
Alors, on n'a pas de Jules, mais on a Zao de Sagazan qui va venir, donc c'est bien aussi.
Oui. Comment vous expliquez que l'art est en train de régresser quand même d'une manière très forte en France? Est-ce que c'est dû au fait, enfin partout du reste, est-ce que c'est dû au fait que vous, justement, il n'y a pas, on parlait d'intelligence artificielle au début, Frédéric Jousset, est-ce que on n'a pas réussi à faire que ça attire les jeunes via les réseaux sociaux?
Alors, sur la base de quel chiffre vous dites que l'art régresse? Parce que si vous regardez le visiteurat des grands musées, il ne cesse de progresser. D'ailleurs, même au Louvre, on est obligé de caper à 30 000 par jour le nombre de visiteurs.
Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de touristes.
Oui, mais je dirais l'intérêt du public pour l'art ne faiblit pas. La fréquentation des salles de cinéma a retrouvé le niveau de la pandémie, etc. etc. Si on regarde, ce qui est le problème qu'on a, c'est la concentration des publics. Il n'y a pas assez de publics variés, et ce sont toujours un peu les mêmes, je dirais, qui profitent de l'offre culturelle. Après, si on regarde art par art, il y a des arts qui effectivement progressent et d'autres qui reculent. Et effectivement, dans la peinture, par exemple, vous pouvez imaginer qu'il y a un certain divorce d'un certain public avec l'art contemporain, depuis Malevitch et le carré blanc sur fond blanc, et depuis l'art abstrait, voire même depuis les monochromes de Klein. Il y a l'idée d'un art qu'on comprend plus, d'un art qu'on pourrait presque faire soi-même.
Oui, il y a la spéculation
qui est aux mains du marché. Et donc, effectivement, sur certains pans de l'art, il peut y avoir un divorce intellectuel entre l'art et le public. Mais je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin d'art dans la société. Je crois que le message des artistes, notamment sur les grandes questions, les questions d'environnement, les questions migratoires, doit être entendu.
Oui, mais il n'y a plus tellement de grands artistes.
Oh, ça, ça, ça vous allez
non,
faire la
je
peine.
Sais pas, je sais bien qu'il y a des très, très belles collections qui existent, mais le, quand vous regardez, il y a quoi, un peu été désarçonné, on va dire.
Bah, vous avez des artistes qui sont des légendes vivantes, comme David Hockney, vous avez okay. Vous avez beaucoup.
Il y a David Hockney, il y avait peu et Soulages, d'accord, mais enfin, ça, c'est quand même des grands classiques.
Oui, mais non, heureusement, je suis pas du tout passéiste en pensant que l'art d'hier est un absolu qu'on ne dépassera jamais. Je pense qu'aujourd'hui, silencieusement, vous avez des artistes dans des résidences dans le monde entier qui sont en train de fabriquer un art d'une qualité exceptionnelle.
Vous avez justement à propos de résidence d'artistes, encore autre chose, vous avez fait de l'ancienne villa du dictateur Hoxha en Albanie, vous l'avez transformée en résidence d'artistes. Ça, c'est presque de la provoque, non ?
Non, c'est une invitation personnelle d'Eddy Rama, qui est premier ministre d'Albanie, qui est lui-même peintre, que j'ai rencontré à titre privé, et je lui ai parlé d'un explorat, et j'étais dans un voyage à Tirana, et il m'a dit, je te propose de visiter ce lieu incroyable, qui est donc cette maison, qui était la maison du dictateur, qui a dirigé pendant 35 ans l'Albanie d'une main de fer, et qui avait banni les artistes. Il m'a dit, comme un clin d'œil à l'histoire, j'aimerais que cette maison devienne la résidence internationale des artistes.
Votre rêve, ce serait quoi, justement, de transformer quel lieu, en France, ou pas forcément, en résidence d'artistes? Vous avez Hangar Y, hein, donc ça, c'est pas une résidence d'artistes, c'est un très bel endroit qu'il faut absolument aller voir. C'est pas votre rêve le plus fou, ça serait quoi?
Bah, on a fait un musée avec un bateau. D'un hangar à Montgolfière, on a fait un centre d'art.
Ouais.
Notre prochain projet en France, c'est la gare Pleyel, dessinée par Kengo Kuma, qui va ouvrir ses portes en 2025.
Où la gare Pleyel
À Saint-Denis-Pleyel.
Ah oui, à Saint-Denis-Pleyel.
Voilà, donc c'est une gare énorme, parce que ça va être la plus grande gare du Grand Paris. Elle va accueillir 200 000 visiteurs par jour. Et dans la gare, un Explora aura un espace de 5000 m² pour faire un espace culturel.
Oui, c'est faux. Toute dernière question. Vous êtes très engagé aussi dans la communauté HEC. Vous avez présidé HEC Alumni. Quand vous regardez ce qui se passe à Sciences Po, vous vous dites quoi? Est-ce que les grandes écoles ont été contaminées ou sont contaminées par les différents mouvements qui existent, le wokisme et d'autres, dans les universités américaines, notamment dans Columbia?
Effectivement, j'habite en plus à quelques centaines de mètres de Sciences Po, et voir l'agitation et voir des propos antisémites from river to sea, de voir ce discours qui, je pense, contraire aux idéaux d'Émile Boutmy, qui était le fondateur de Sciences Po, je suis content que HEC effectivement soit pour l'instant relativement à l'écart de cette vague.
Comment vous expliquez ce mouvement? Est-ce que c'est un mouvement qui vient des États-Unis? C'est un mouvement comment le contrer?
Je pense que dans le cadre spécifique de Sciences Po, c'est la conséquence de l'ouverture qui avait été décidée à marche forcée par Richard Descoings, avec
15 000 étudiants aujourd'hui.
Avec un concours parallèle pour les ZEP, zones d'éducation prioritaire.
Ouais. Bah,
et qui ont, alors la diversification sociale, c'est très bien, il faut qu'elle respecte, je trouve, des critères de méritocratie, parce que sinon ça n'est pas une élévation, c'est un abaissement du diplôme. Et je trouve que dans le cas de Sciences Po, je trouve que la voie que HEC a choisie, qui est de donner des bonus aux gens qui réussissent la première fois, parce qu'on a réussi, on a remarqué que le concours qui était passé une deuxième fois, une troisième fois, avantageait les Parisiens qui étaient dans les préparatoires privés. Je trouve que on est arrivé à cet objectif de 18% de boursiers de manière plus méritocratique. Et je pense que Sciences Po en subit aujourd'hui les conséquences.
Ouais. Il faudrait faire une école de l'art, il y a l'école du Louvre, mais est-ce qu'il faudrait faire...
Ah ben il y a 55 écoles d'art en France.
Non, mais donc, on est d'accord,
ça, on
55,
pas.
Mais enfin, je veux dire, une vraie, enfin, il y a un Sciences Po de l'art, si vous voulez, ou un HEC de l'art.
Ben ça existe, ça s'appelle l'école des Beaux-Arts de Paris, l'école du Louvre, l'école Camando, l'école des arts décoratifs. Non, franchement, on a des très très belles écoles d'art en France.
Donc oui, ça suffit, ben voilà, faites ça. Il faut dire ça aux jeunes qui fassent ces écoles-là. Merci beaucoup Frédéric Jousset. Donc SMAC, et puis aussi Art Explorer qui arrive donc le 6 juin à Marseille.
Voilà, rendez-vous sur artexplora.org pour être bénévole ou tout simplement pour venir visiter le bateau.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35 sur BFM Business. C'est reparti jusqu'à 20h. Good evening business. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous jusqu'à 20h comme tous les jours. Et puis nos experts du soir, Bruno Coquet, est avec nous. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Bienvenue, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Edwige Chevrillon, bien sûr, qui reste avec nous. Bonsoir, Edwige.
Bonsoir.
C'est très intéressant, entre autres, ce que racontait Frédéric Jousset, donc cofondateur de WebHelp, numéro 3 mondial de la relation client.
Oui, il est en passe de devenir numéro 2 depuis qu'ils ont été vendus justement à l'américain.
Yvan, parce que vous dites, l'étape d'après, forcément, c'était d'aller vers l'intelligence artificielle. Il a dit, j'y vais pas, en fait.
Oui, mais oui, c'est intéressant. Je posais la question en disant, mais pourquoi ? Mais même maintenant, où il est quand même... Il a quelques petits zéros sur son compte en banque. Je lui dis, mais pourquoi vous n'y allez pas? Pourquoi vous n'avez pas été chez Mistral AI? Pourquoi vous n'êtes pas dans d'autres? Il dit, mais non, parce qu'il faut mettre des très, trop gros tickets. Il faut mettre de très, très gros tickets pour que ça vaille le coup. Sinon, il y aura beaucoup de perdants. Et en plus, il pense qu'il y a un peu comme il y a une bulle au début de l'e-commerce et c'est une bulle dans l'intelligence artificielle.
C'est ça.
Donc, bon, il a dit, on voit Elon Musk qui met 6 milliards. Là.
Oui. Alors, du coup, non, parce que c'est marrant, du coup, il va dans le BTP. Complètement contre-intuitif.
J'ai fait un petit raccourci. Le BTP, c'est l'innovation est très importante. C'est un des leaders SMAC. C'est un des leaders dans l'étanchéité le cours Philippe Châtrier, Roland Garros, ou le Grand Paris. C'est quand même assez gros. Ça fait déjà 500 millions de chiffre d'affaires. Il veut faire 2000 personnes. Il veut faire 1 milliard d'ici 5 ans.
Et il dit la plupart des logements ont été construits avant 2000, donc avant toute une paletanquée de réglementation environnementale. Donc il y a un marché, effectivement.
Marché, ce qu'il rappelait aussi, c'est que le bâtiment, en effet, c'est le deuxième émetteur de CO2 après les transports. Et que donc, évidemment, il y a un énorme marché, justement, pour verdir tout ça. Mais ce qui est intéressant dans le parcours de Frédéric Jousset que j'ai reçu dans Impact, c'est qu'il a toujours su rebondir. Et quand, à l'époque, il imagine WebHelp, il imagine un call center qui répondrait à toutes vos questions. Où se trouve-t-elle le restaurant? Quel a été le président de la République de telle et telle année en France, par exemple? Et il se réveille un matin et là, il reçoit un message d'un de ses amis qui lui dit « Alors, il y a un truc qui s'appelle Google qui débarque, faut que tu regardes. » Et là, il s'est dit « On est foutu. » Il a réussi à pivoter quand même assez rapidement et à en faire, en effet, le succès que vous avez décrit, Edwige. Donc,
entrepreneur à succès. Ils avaient découvert, en fait, la mondialisation avant l'heure, c'est-à-dire que les centres d'appel, ils étaient au Maroc, ils étaient dans des... Voilà, ils n'étaient pas en France. C'est pour ça qu'à un moment, ils ont été quand même très critiqués par rapport à... à la délocalisation, c'est son appel.
Ce qui est arrivé à Téléperformance aussi.
Exactement.
Aussi, oui.
Dans la même mouvance. Voilà donc pour Frédéric Jousset, cofondateur de WebHelp. Et donc
qui fait dans l'art, c'est formidable.
Qui fait dans l'art aussi, voilà, qui se diversifie.
Démocratisation, accès à la culture pour tous. Voilà, c'est son objectif.
Profite de la vie, quoi, en quelque sorte. Voilà.
Il fait plus que ça. Je pense qu'effectivement, il faut absolument démocratiser la culture et sortir d'un Français sur trois qui ne va jamais dans un musée, qui n'est jamais confronté à la culture, que ce soit un concert ou autre chose.
Oui, c'est ça, parce que lui, il va plus loin que la fracture sociale, il parle de vraies fractures culturelles avec des publics qui sont toujours les mêmes dans ces grandes institutions-là, en effet. Et donc, il finance beaucoup, parce qu'il finance ce bateau qui va aller dans toutes les grandes villes portuaires du monde pour apporter la culture.
Dans la Méditerranée.
Trentaine de ports. Voilà donc pour Frédéric Jousset. Bien, revenons à nos moutons.
C'est bien. Alors lesquels? On a plusieurs ce soir de moutons.
Il y a un grand mouton quand même là qui se dessine.
L'UNEDIC.
Bien sûr.
Ah voilà. Bon, alors dans l'actualité, en effet, ce soir, il y a cette réforme de l'assurance chômage dont on connaissait les grandes lignes, dont on a débattu notamment avec vous, Bruno Coquet, mais que Gabriel Attal, ça y est, a détaillé hier, dimanche, durcissement des conditions d'accès et puis évolution des règles pour les seniors. Et
évidemment, depuis hier soir, après Gabriel Attal, tous les ministres ont fait le service après-vente, forcément, aujourd'hui, de cette réforme. La cinquième depuis 2017. Écoutez Catherine Vautrin, la ministre du Travail, ce matin sur BFM TV.
Vous savez, je crois qu'on va déjà reprendre les éléments de contexte parce que depuis 2017, une chose a changé, c'est la fin du chômage de masse. Quand Emmanuel Macron est élu président de la République, il y a 10% de taux de chômage et le chômage de masse est endémique. Aujourd'hui, 2024, 2,5 millions de Français ont retrouvé le chemin de l'emploi, ont retrouvé un emploi, ont retrouvé une vie personnelle et professionnelle. Et donc, à partir de là, le sujet qui se pose, c'est de savoir d'une part, que devons-nous faire pour permettre à celles et ceux qui sont encore en recherche d'emploi d'aller vers l'emploi, et d'autre part, comment répondons-nous aux besoins des entreprises? Parce que notre pays a besoin de femmes et d'hommes qui s'engagent et qui aillent travailler dans ces entreprises. Aujourd'hui, nous avons près de 400 000 emplois qui ne trouvent pas preneur au moment où nous nous parlons.
Bon, on cherchait quel était le marqueur de la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut dire que le durcissement des règles de l'assurance chômage, ça en est un? Parce que trois réformes en moins de cinq ans, on peut dire que c'est un peu une obsession, avec évidemment dans le viseur cet objectif plein emploi. Bruno.
Oui, on peut dire que c'est obsessionnel. C'était un des premiers de la volet de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ouais, en 2018. Et depuis, alors à cause du Covid aussi, il y a eu des décrets spécifiques, mais bon, il y a eu trois ou quatre grosses réformes de l'assurance chômage, qui en fait ne sont pas des réformes, hein, il faut bien le comprendre, c'est juste des coupes dans les droits. Une coupe dans les droits n'est pas forcément une réforme. Hein, donc, sachant que le prédit de l'effet de cette coupe dans les droits est de dire globalement je diminue les revenus hors de l'emploi. Et donc, du coup, j'incite les chômeurs à retravailler. Après, est-ce que ça crée des emplois et tout ça?
Là, ce qu'on nous annonce, c'est que c'est censé créer 90 000 emplois.
Oui, mais ça, c'est riquiqui.
On est bien d'accord, au vu des 400 000 emplois à pourvoir.
Ça n'a aucun rapport.
Ah ben en plus.
D'abord sur le diagnostic, on a mis fin au chômage de masse. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'argent dans la machine en ce moment.
Alors c'est valable pour toute l'Europe aussi au passage. Le chômage n'a pas baissé qu'en France.
Hein, voilà, c'est ce que je veux dire. Si on regarde notre taux de chômage, on est dans les 5 derniers européens. J'ai pas vérifié ce matin, mais globalement c'est ça, 4 ou 5e en partant de la fin. Et quel que soit l'indicateur que vous prenez sur le marché du travail, on n'est jamais dans la première moitié du classement européen. Donc déjà on a ce point. Le deuxième point, c'est les emplois non pourvus. La plupart des chômeurs, 60%, ne sont pas indemnisés. Oui. Et donc, la question est de savoir pourquoi ne reprennent-ils pas ces emplois? Et est-ce qu'ils vont y être conduits demain?
C'est un sujet de formation,
pas
principalement.
Pas seulement.
Et de meilleure indemnisation.
Non, puisque sinon, si c'était un problème d'indemnisation, les chômeurs non indemnisés les prendraient, ces emplois, puisqu'ils n'ont pas de revenus. Et donc, du coup, cette explication-là, on ne l'a jamais. Alors, il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes
logement,
de mobilité géographique. C'est aussi un problème européen en ce moment, le problème des difficultés de recrutement. Il y a aussi des problèmes de conditions d'emploi, de conditions de salaire, etc., qui font que les emplois ne sont pas forcément aussi attractifs qu'il faudrait. Parce que les secteurs qui ont le plus de difficultés, c'est aussi les secteurs où les conditions d'emploi sont les moins bonnes.
Edwige, est-ce que c'est un tour de vis, alors très sévère, plus sévère que les autres, disent les syndicats, qui va nous permettre, entre autres mesures, c'est un peu la question qu'on pose ce soir, de nous amener bon an mal an vers le plein emploi, finalement.
Non, surtout ce que je dirais, c'est qu'on s'attendait à ce qu'il y ait soit sur les conditions d'affiliation, qu'on pensait que là, il y aurait quelque chose, mais on ne pensait pas qu'il y aurait aussi quelque chose sur la durée d'indemnisation, parce que là, il y a vraiment les deux... Les deux composantes qui sont quand même où il y a un tour de vis assez fort, même pour pas dire très très fort. Donc c'est un peu une surprise. Atteindre le plein emploi, comme l'a dit Bruno, le président Macron a toujours dit que c'était son objectif. Est-ce qu'il va y arriver? C'est pas parce que c'était la fin de son deuxième quinquennat, rien n'est moins sûr. En même temps, on l'a dit encore la semaine dernière, ça pourrait, enfin. Dans un rêve, ça pourrait faire 100 milliards d'économies, donc ça ferait du bien pour les finances publiques de la France. Mais surtout, ce que je dirais, c'est que là, c'est bien. Enfin, voilà, on avait les chômeurs, on les a un peu pointés du doigt, on a dit que tout ça, ça coûtait cher. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'il manque un autre volet. Il manque quand même, qu'est-ce que vont faire les entreprises? Et notamment sur les seniors, parce que c'est quand même là où le bas blesse. On a un taux d'employabilité des seniors, même s'il s'améliore, qui est un des pires d'Europe. Et là, et pour les entreprises, pour l'instant, il n'y a rien.
Justement, écoutez ce que disait ce matin Jean-Eudes Dumesnil, le numéro 2 de la CPME. Il dit, là, on a pris des mesures pour inciter les seniors. On aurait pu faire quelque chose aussi pour inciter les entreprises. Écoutez ce qu'il disait ce matin sur BFM Business.
C'est une bonne idée, mais c'est la moitié du chemin, malheureusement. Pour avoir une mesure véritablement efficace, il aurait fallu inciter les seniors eux-mêmes, c'est le sens de la mesure du gouvernement, mais il aurait fallu également inciter les entreprises à embaucher des seniors. Et malheureusement, dans le plan qui a été annoncé, il n'y a strictement rien dans ce sens-là. Et nous avions proposé, nous, à la CPME, une mesure consistant à dire diminuons les supprimons même les cotisations assurance chômage payé uniquement par l'employeur pour les seniors, sous condition que l'entreprise garde le senior jusqu'à la date de sa retraite. Et si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, l'entreprise aurait dû rembourser. Voilà une mesure qui aurait été incitative Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Oui, parce que là, on a un dispositif alors, qui consiste à préserver le salaire des chômeurs les plus âgés quand ils vont accepter de reprendre un emploi qui est moins bien payé que leur ancien poste. Mmh. Mais est-ce que ça ne risque pas d'inciter justement les employeurs, finalement, à recruter des salariés expérimentés à moindre coût et tout ça financé par la collectivité ?
Si, justement. Ouais. La protection sociale, ça ne sert pas à financer des subventions aux salaires, ou même à financer des salaires. Alors, on a pris cette habitude, le gouvernement, enfin, les gouvernements, pas celui actuel, avec la prime d'activité, les chèques, les machins, tout ce qui complète le salaire. Donc, oui, mais... par ailleurs, on a pris l'habitude d'exonérer les cotisations sociales pour, à bon droit pour réduire le coût du travail. Au bout du compte, on se retrouve, et ça, on est très spécifique en Europe, avec un marché du travail qui a des béquilles partout, des subventions partout, on n'y comprend plus rien.
Mais parce que les entreprises le demandent. Hein.
Comment ?
Les entreprises, sinon, regardez sur l'apprentissage, sur les bas salaires, sinon les entreprises, elles ne le recrutent pas.
Oui, mais le point, c'est que c'est le vieux monde. Les subventions à l'emploi, c'est le vieux monde.
C'est bien ce que demande la CPME, on est encore là-dedans. Quand même.
Mais elle demande une subvention.
Oui.
Donc, alors que le problème des seniors, l'assurance chômage des seniors, jusqu'en 2002 exactement, c'était les 57 ans et plus, donc la même borne que celle qui va être prise, c'était 60 mois d'indemnisation. Alors on est d'accord, c'était sûrement un peu trop, mais
on a 60 mois.
Oui, 60 mois, donc 5 ans. Donc
c'était l'époque des pré-retraites, etc.
Et donc du coup, on a divisé par 3. Mais le problème des seniors demeure. Le problème est double. C'est une double discrimination à la rupture des contrats de travail et à l'embauche. C'est la catégorie de chômeurs dont la probabilité de réemploi est la plus faible derrière les handicapés, y compris lorsqu'ils se forment. C'est-à-dire que le problème de l'indemnisation n'est pas le problème. Et donc, du coup, le sujet des seniors, il est d'abord en dehors de l'assurance chômage. Et en revanche, dans l'assurance chômage, c'est un point important. C'est que, en gros, c'est des gens qui ont payé de l'assurance chômage toute leur vie. Et lorsque le risque se présente, aujourd'hui, même avec les conditions d'aujourd'hui, donc ils sont au maximum du risque et l'indemnisation qu'ils ont ne couvrira jamais les cotisations qu'ils ont payées. Alors on est dans un système de protection sociale, solidaire, tout ça, mais néanmoins, une assurance où lorsque le risque se présente pour vous, finalement vous êtes moins indemnisé que si vous aviez fait de l'auto-assurance, de l'épargne, eh bien ça ne tient pas debout.
Mais attendez, on est dans une contradiction. Donc un senior qui s'est formé ou qui a été formé a le même nombre de chances de retrouver un emploi que celui qui ne s'est pas formé à de nouveaux métiers ou à une évolution.
Ils n'ont pas de chance. Ils ont très peu de chance.
Il en a un peu plus, mais il reste quand même dans la queue du classement des chômeurs derrière les handicapés.
Voilà, d'accord, non, mais il en a un peu plus quand même.
Le point c'est qu'il en a plus, mais au bout du compte, quand l'employeur est confronté à différents profils de chômeurs, le dernier qu'il choisit, ça va être
le senior. C'est un sujet culturel.
C'est un sujet totalement culturel pour les entreprises. Et quand vous parlez de subventions, vous avez raison, en principe, Bruno. La seule chose, c'est que c'est aussi une incitation pour faire qu'il y ait une évolution culturelle des entreprises par rapport justement aux seniors. Parce que les seniors, c'est à partir de 50 ans, 52 ans, pour les...
42, la première fois où on m'a dit que j'étais trop vieux pour un job.
Et voilà, et pour les femmes, en général,
42
ans. C'est 40-42 ans, à partir de là, vous ne trouvez plus de job. Donc, c'est là où il y a quand même un problème culturel dans les entreprises françaises.
Chez Feu Pôle emploi, dans les France Travail, vous êtes senior à partir de 45 ans aujourd'hui, quand même, pour l'avoir.
Oui, mais c'est complètement fou.
Bah oui, c'est complètement fou.
Vous voyez qu'on peut vivre 100 ans, c'est quoi ça ?
Tiens, réaction Olivier Faure, tiens, pour le Parti Socialiste. Écoutez ce qu'il disait ce matin chez nos concurrents de France Info.
Vous vous rendez compte que le régime d'assurance chômage, il est excédentaire. Excédentaire. Donc, vous cotisez, nous cotisons, et donc...
Le gouvernement dit pas l'inverse, il dit c'est pas une réforme budgétaire, c'est pour ramener des personnes vers l'emploi, créer 90 000 emplois, c'est l'argument.
Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il ponctionne chaque année sur l'assurance chômage pour, en fait, venir nourrir les déficits qu'il a lui-même créés par ailleurs.
Donc, c'est un tabou de toucher à l'assurance chômage.
Mais ça n'est pas un tabou. Ce que je dis, c'est que il y a aujourd'hui une violence sociale qui est complètement incompréhensible, parce que quel est l'objectif affiché? Il nous dit c'est pour qu'il y ait moins de chômeurs, mais parce que vous pensez vraiment que parce qu'on va priver un jeune qui a moins de 26 ans et qui rentre en CDD pour 6 mois de toute indemnisation, ça va améliorer quoi que ce soit? La réalité, c'est que personne n'a jamais documenté le fait que ça avait un effet quelconque sur l'emploi.
Affiché par le gouvernement, je redis 80 000 emplois, c'est l'argument du
gouvernement. La troisième réforme de l'assurance chômage, on n'a même pas évalué les précédentes, on est déjà à la troisième.
Alors, je rebondis sur ce que disait Olivier Faure, parce que Gabriel Attal disait hier soir à la télévision, nous prolongeons prolongeons la réforme engagée en 2019, dont les études montrent qu'elle produit ses effets. C'est vrai ça ou pas, Bruno?
Il faudrait produire les études.
Donc,
il y a une espèce de petit bilan de la DARES qui répète en fait, pour l'essentiel, les objectifs de la réforme, ce qui n'est pas une évaluation.
Non. Bon.
Par ailleurs, le gouvernement est contraint par la loi qu'il a lui-même votée en 2018 de remettre chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, c'est le Code du travail, un rapport sur la gestion de l'assurance chômage. Il n'y en a jamais eu aucun. Ça aurait pu faire un élément de bilan. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en termes d'évaluation, c'est-à-dire qu'il faut du recul pour faire de l'économétrie et tout ça. Mais en revanche, vous pouvez faire de la comptabilité. Vous imaginez si AXA avait fait une réforme il y a 5 ans, ce que lui demanderaient les actionnaires aujourd'hui, lui diraient « Ah ben non, pas de bilan, pas de compte de résultat. » Non, c'est pas possible. Il y a des choses comptables sur des tas de mesures qui ont été prises, sur notamment l'éligibilité, la dégressivité, le bonus-malus, qui sont faisables aujourd'hui. Ouais. Mais, il n'y a pas besoin de les faire, puisque au fond, c'est pas l'argument. L'argument, il est juste de dire il faut que le travail paye plus. Mmh. Or, dans les réformes proposées...
Que le travail paye plus et que le chômage paye moins.
Non, mais surtout, le travail va et payer moins. C'est-à-dire affaiblir le pouvoir des négociations du chômeur, ça veut dire le contraindre à accepter plutôt un salaire plus bas.
Oui.
Et par ailleurs, où la protection sociale associée à ce contrat de travail est moindre, puisqu'il y a moins de droits à l'assurance chômage. Et donc, dans les deux cas, le travail paye moins.
Donc... allez-y.
Et évidemment, l'assurance sociale paye moins, mais il y a ce concept de dépense sociale qui est extrêmement fâcheux et qui gagne du terrain en ce moment. C'est une assurance. Et comme l'a dit Olivier Faure, qui a dû me lire, puisque moi depuis 15 ans, je raconte que l'assurance chômage, celle qui est réformée tout le temps, c'est-à-dire le droit commun, parce que les intermittents en pleine saison des festivals ou les frontaliers, la générosité par rapport à l'Allemagne, on la regarde pas, mais l'assurance chômage, c'est-à-dire les prestations moins les cotisations, elle est excédentaire chaque année, en moyenne de 2 milliards d'euros, depuis 1997. Chaque année, quelle que soit la situation, même pendant la crise sanitaire, c'était l'équilibre. Et donc, du coup, dans un cas comme ça, qu'est-ce que vous faites? Si vous diminuez les droits, ok, très bien, parce qu'il faut inciter les gens, mais vous diminuez les cotisations. Or, les cotisations, on paye deux fois plus cher qu'en Allemagne. D'accord. Et donc, on paye près d'un mois de salaire net par an. Réfléchissez à quoi vous consacrez un mois de salaire net par an.
Oui, très intéressant de voir qu'on paye deux fois plus qu'en Allemagne, parce que justement, l'argument du Premier ministre a été de dire il faut qu'on se rapproche des Allemands. Bon, faire ça juste avant le vote aux élections européennes, je ne sais pas si c'est très diplomate, parce qu'il y en a certains qui vont dire, vous voyez, c'est de la faute à l'Europe.
Oui, donc, voilà. C'est clair.
Et puis Edwige, l'argument n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, une assurance, c'est fait pour assurer contre les problèmes d'ici. C'est-à-dire, on assure pas, quand on est dans le désert, on ne s'assure pas contre les inondations, vous voyez. Et donc, les problèmes du marché du travail français, c'est quoi? C'est les seniors, c'est les contrats courts, certaines dons de discrimination. Donc, c'est ces assurances-là qu'il faut avoir, parce qu'en plus, elles ont l'inconvénient, le passage par le chômage en France, il a cet inconvénient de faire perdre tout le capital humain. Donc, par ailleurs, on a une politique de formation, mais chaque fois qu'on passe par le chômage, on est nettoyé d'une partie de son capital.
On a bien compris,
humain.
Bruno, qu'on a un problème de méthode, mais on a aussi un problème de cohérence, parce qu'on a ce nouveau durcissement, qui est donc le troisième en cinq ans, qui intervient au moment où le marché du travail se complexifie, et quid du fameux principe de contrat cyclicité qui était prôné et prêché par le gouvernement.
Mais ils ont fixé de nouveau.
C'est l'inverse.
6,5, 9%, on va voir ce qui se passe.
Si c'est
il y a juste un point qu'avait soulevé, lorsque je l'avais reçu du reste, c'était François Omeril de la CFE-CGC, la question du délai de carence. Vous savez, ce que vous touchez quand vous quittez un job.
6 mois.
Ça fait 6 mois. Et puis en plus, le compte épargne-temps. Qui rentre dans ce délai de carence
qu'on peut exiger.
Ce qui en soi est délirant. Là, on n'a aucune précision, enfin, sauf si vous en avez, mais je n'ai pas vu de précision là-dessus.
Alors, le point, c'est que moi, ce que je réponds à tout le monde, c'est le diable est dans les détails. Pourquoi? Puisque l'interview de Gabriel Attal, et je ne sais pas, je ne vais pas mesurer, doit faire 8000 caractères.
Oui.
La réglementation à l'assurance chômage, aujourd'hui, fait 600 pages.
Oui.
Bon courage. Donc, dont les pages principales sont incompréhensibles. Il faut le bonus-malus, la dégressivité.
Oui, parce qu'on a le bonus-malus, mais ce matin, avec l'interview de Catherine Vautrin, on a.
Ah non, mais moi, j'invite tout le monde à faire un truc très, très chiant. C'est aller lire le décret de 2019, les articles 50 à 54 qui définissent le bonus-malus, notamment tous les employeurs qui y sont soumis. ça prend pas longtemps, ça prend une petite. 3-4 minutes pour se rendre compte que, franchement, on ne peut rien y comprendre. prendre et que du coup prétendre qu'on donne des incitations claires avec un texte incompréhensible, moi je ne le crois pas.
Oui, voilà. Et puis on a aussi un État qui resserre petit à petit son étau sur un régime qui est censé appartenir aux partenaires sociaux et qui finalement, avec un paritarisme en tout cas, qui est de moins en moins présent.
Ah ben oui, mais on en parlera tout à l'heure, mais le discours d'Emmanuel Macron raconte bien ça. Il dit qu'en fait la protection sociale ponctionne sur notre richesse. C'est un renversement de valeur de 1945. Ouais. Au contraire, c'est une contribution à la création de richesses, normalement. Et puis, en plus, ce sont des assurances. Donc, les prestations financent les cotisations.
Oui, et c'est pas là, ça qui fait le déficit. Ce qu'il dit, c'est que finalement, en fait, c'est un système qui coûte plus cher que ce qu'il ne rapporte.
C'est pas vrai.
Bah non,
c'est faux.
Ce n'est pas ce que je dis, mais je cite.
Voilà pour la réforme de l'assurance chômage, dont on va reparler, bien sûr, jusqu'à 20h sur BFM Business. On n'a pas le temps de parler de la visite d'Emmanuel Macron en Allemagne, sauf si vous en attendez Monts et Merveilles, mais a priori, non, je ne sais, non.
Ah, bah, c'est important quand même, dans deux semaines.
On verra demain,
c'est les embrassades.
Oui,
c'est quoi, c'était le politiquement correct. On attend de voir demain s'il se passe quelque chose de concret.
On en reparlera en tout cas d'ici 20h.
J'ai pas compris l'objectif.
C'est une visite d'État, quoi. Il n'y a pas eu de visite d'État officielle.
Il y a plusieurs sujets, Bruno, sur lesquels il faut se mettre d'accord.
24 ans.
Oui, j'ai noté.
Dernière visite d'État.
Non, mais c'est très bien, pareil.
Après, ils se voient souvent, tu as dit.
Mais quand même, les présidents, les derniers, ils sont allés, leur premier voyage à l'étranger était quand même l'Allemagne, normalement. Les présidents français, en tout cas.
On en reparle, Bruno, il faut revenir dans un quart d'heure jusqu'à 20h avec nous sur BFM Business. Edwige, à demain, 18h10.
Demain, on va parler d'immobilier, crise de l'immobilier, aussi, avec Alain Tarabella, qui lui se lance dans les logements sociaux. Il nous dira pourquoi, est-ce que ça peut être rentable. Puis surtout, c'est comment faire pour sortir de cette crise de l'immobilier qui coûte très cher à l'État et à Bercy.
Grande figure du secteur immobilier, Alain Tarabella, demain soir à 18h10 sur BFM Business. 18h57, nous on revient dans un instant. Évidemment, on a encore beaucoup de choses à raconter, ça tombe bien, il nous reste une heure.
Et oui, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats, interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, on repart. Deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr, jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, beaucoup de choses à raconter, notamment du remue-ménage apparemment du côté du Club Med. On va voir ça avec Mathieu Pechberti dans un instant. Et un regain de tension notamment entre le groupe, les dirigeants et l'actionnaire chinois Fosun qui est présent depuis des années. On va vous raconter ça bien sûr dans un instant. Nos experts, ils reviennent bien sûr à 19h15 dans un quart.
Et oui, alors on parlera avec eux aussi bien sûr de cette nouvelle réforme de l'assurance chômage, enfin détaillée par Gabriel Attal hier. Alors ce nouveau tour de vis va-t-il réellement nous amener à l'objectif plein emploi? Eh bien, on y répondra tout à l'heure. On posera aussi cette question sur la visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne. Il est en ex-RDA en ce moment, à deux semaines des élections européennes. Ça n'a échappé à personne. Alors, que peut-on en attendre? C'est la question qui se pose.
On va poser la question à nos experts. Bruno Coquet de l'OFCE va revenir. Emmanuel Le Chypre sera là, présence exceptionnelle. Et puis le communicant Jackie Isabello. Tout ça jusqu'à 20h, entre autres surprises, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h.
À tout de suite.
Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise.
Good Evening Business, le journal.
Donc, je vous le disais, il se passe des choses du côté du Club Med. D'après nos informations, en fait, le numéro 2 du groupe a démissionné juste avant le week-end. Conséquence de ce départ, le patron du Club Med, Henri Giscard d'Estaing, risque de se retrouver un peu plus seul désormais face à Fosun, l'actionnaire chinois à 100%. Mathieu Pechberti nous raconte ça.
La crise couvait depuis plusieurs mois, mais elle se révèle désormais au grand jour. La démission du bras droit d'Henri Giscard d'Estaing illustre le bras de fer entre le Club Med et son propriétaire Fosun. Au début de l'année, le géant chinois avait déjà parachuté son directeur financier au même poste au Club Med pour surveiller les finances du groupe. Alors que le patron de Fosun préside déjà le groupe français, l'emblématique patron du club, Henri Giscard d'Estaing, est désormais très encadré. Il espérait pourtant vendre 30% du capital à la famille Moos pour desserrer l'emprise de son actionnaire, mais les Suisses, déjà propriétaires de Lacoste, voulaient racheter la totalité du groupe de tourisme. Fosun a finalement refusé, bien qu'il ait besoin de cash pour rembourser sa lourde dette de près de 40 milliards d'euros. Désormais, les dirigeants du Club Med craignent que le groupe chinois ne puise dans la trésorerie, alors qu'il reverse déjà environ 80 millions d'euros de dividendes chaque année.
Mathieu Pechberti, dont vous retrouvez toutes les infos, bien sûr, sur notre site internet bfmbusiness.com, si le sujet vous intéresse, bien sûr. Emmanuel Macron, je vous le disais, donc en Allemagne depuis hier. Visite qui se poursuit demain, ça n'a échappé personne, tout ça, 15 jours des élections européennes. La France et l'Allemagne qui veulent fixer l'agenda stratégique de l'Europe pour les 5 prochaines années. Bonsoir Thomas Asportas. Ce qui est intéressant, c'est que les deux pays partagent beaucoup d'objectifs, mais c'est sur la manière de les atteindre qu'il y a de sérieuses divergences. C'est ça, Thomas, hein ?
La difficulté, effectivement, pour la France et l'Allemagne est de passer de la parole aux actes sur des sujets très nombreux et très compliqués, j'allais même dire existentiels. Il s'agit de réarmer l'Europe face au retour de la guerre. Il s'agit d'accélérer la force, le dynamisme de l'Europe dans la révolution technologique et climatique, ou encore de renforcer la souveraineté industrielle. Sur tous ces grands objectifs, vous l'avez dit, la France et l'Allemagne sont d'accord. Elles le font savoir depuis hier à grand renfort de grands discours des présidents français et allemands. Mais quand il s'agit de passer à la pratique, c'est là qu'on voit les divisions reçues surgir et apparaître. Pour financer l'innovation et la décarbonation, par exemple, la France appelle à doubler l'investissement public en Europe. D'après Paris et Berlin, les 27 devraient investir 735 milliards d'euros par an pour financer ces deux révolutions. La France pousse pour un nouvel endettement en commun, comme on l'a fait pendant la crise du Covid, mais l'Allemagne ne veut pas en entendre parler. Il ne s'agit pas de refaire l'exercice une deuxième fois. Elle est aussi très réservée sur l'idée à nouveau française d'une augmentation massive du budget européen, de peur de creuser la dette de beaucoup d'États membres. Pour financer l'IA et le climat, on sait aussi qu'il va falloir beaucoup d'argent privé, l'argent public ne va pas suffire. Là aussi, les deux pays sont d'accord pour dire qu'il faut faire l'union des marchés de capitaux, mais là aussi, dans la pratique, l'Allemagne n'est pas vraiment emballée par l'idée française d'un produit d'épargne européen. Et enfin, encore un dernier point d'achoppement, la question de l'énergie, question clé évidemment de compétitivité. Là aussi, les deux pays veulent décarboner, veulent une énergie compétitive, bon marché, mais dans les faits, presque tous les opposent, à commencer bien sûr par le rôle du nucléaire et son financement par la Banque Européenne d'Investissement. Donc on voit bien que les deux pays ont beaucoup de sujets à régler, vont devoir essayer de trouver des compromis, de rapprocher leurs positions, et ça va être tout l'enjeu du Conseil des ministres franco-allemands qui va se tenir demain après-midi, qui va être exclusivement consacré à la question de la compétitivité européenne.
Ouais, on a les mêmes ambitions, mais pas forcément la même façon d'y parvenir. Donc on n'a pas le même tempo politique. Olaf Scholz aussi, qui doit maintenir une coalition un peu brinque-ballante, et puis Emmanuel Macron qui n'a pas à se représenter.
Tout ouais, ça joue. Merci, ça joue aussi, bien sûr.
Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Tiens, puisqu'on parle de compétitivité, on a appris aujourd'hui que la Chine avait injecté l'équivalent de 40 milliards de dollars dans un fonds d'investissement pour redonner un coup de fouet à son industrie des semi-conducteurs et la faire monter en gamme. On sait à quel point la rivalité est forte sur ce terrain avec les Américains. Ces dernières années, les Américains, vous savez, ont régulièrement adopté des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine, précisément. Et puis alors, ça a été une bonne journée, très bonne journée même, disons-le comme ça, pour Elon Musk. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume.
Il a annoncé qu'il avait réussi à lever 6 milliards de dollars nouveaux pour sa start-up dédiée à l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on prononce, je supposais la
XAI.
XAI.
Alors qu'il ne faut pas confondre avec X, l'ex-Twitter.
Voilà, c'est ça.
C'est la même famille, mais voilà, c'est une autre société.
6 milliards, ça va suffire pour rattraper les petits concurrents ou pas?
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a encore quelques mois, il disait non, pour Grok avec un K, parce qu'il y a aussi une IA qui s'appelle Grok avec un Q, qui existe mais qui n'est pas de lui. Grok avec un K. Il y a quelques mois, il disait non, moi j'aurais pas besoin de lever de fonds, c'est bon, on va la développer, tout ira très bien. Et puis là, à la vitesse à laquelle vont ces innovations, il se rend compte qu'il est quand même obligé de lever 6 milliards de dollars. Ça valorise déjà son entreprise XAI, qui était déjà valorisée aux alentours de 18 milliards de dollars. Elle est valorisée 24 milliards de dollars. Alors au générique, il y a les grands investisseurs du moment, hein, les Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, il y a même le prince Al-Walid Ben Talal, voilà, d'Arabie Saoudite. Voilà, il a réuni tous ces gens-là. Commercialiser les premières applications, c'est investir davantage dans la R&D, c'est du recrutement aussi, et puis c'est acheter de la puissance calcul, parce qu'il se rend compte que là aujourd'hui, enfin il le savait déjà, mais il faut avoir beaucoup plus de composants, beaucoup plus de microprocesseurs, donc il s'engage. Alors on va dire c'est l'équivalent, acheter l'équivalent de 100 000 GPU Nvidia, qui sont ces puces ultra puissantes dédiées à l'IA. Je dis l'équivalent parce que Nvidia est en train de travailler sur la nouvelle version, donc vous imaginez bien qu'Elon Musk va pas dire donnez-moi l'ancienne version, je m'en contenterai. Non, il veut aussi la nouvelle version. Et puis il parle même du développement d'un super calculateur, hein, là-dessus. Ouais. Il part en concurrence derrière tout le monde. Alors il s'associera avec Oracle est un poids lourd, hein, du logiciel, du cloud, et puis pour faire tourner. Et puis alors il veut évidemment, parce que c'est ça Musk, hein, c'est que emmêler un peu tout ça, combiner un peu tout ça, c'est utiliser toutes les datas de X Twitter pour entraîner son moteur XAI, de XAI Grok, voilà, pour faire des résumés d'actualité avec avec tout ce qu'on entend sur Twitter, tous les commentaires. Alors, c'est un peu son idée.
Il a paradé aujourd'hui sur cette levée de fonds et on a vu qu'il s'était pris un tacle sur X, justement, de la part de Yann Lequin, le monsieur Meta, le monsieur intelligence artificielle de Meta.
Alors,
il a un peu cherché apparemment.
Yann Lequin est toujours, il est un peu vexé de ne pas avoir été le premier à parler de cette IA générative. Alors quand il voit OpenAI et Musk s'exprimer, il faut savoir que la communauté de l'intelligence artificielle, Musk, il dit c'est pas un expert, c'est pas quelqu'un de notre domaine. Hein. Il investit, il est génial, c'est un entrepreneur, un visionnaire, tout ça. Mais c'est pas un expert IA. Et alors ce que dit Yann Lequin, parce que justement Elon Musk, il a besoin de quoi? Il a besoin, on l'a dit, d'argent, il a besoin de processeurs. De puissance calcul, de données, mais aussi de recruter des gens. Et bien là, Yann Lequin dit, alors si vous voulez aller chez XAI, bien si vous voulez que le travail soit résolu l'année prochaine, sans pression, bien allez-y. Si vous voulez travailler avec quelqu'un qui prétend que ce sur quoi vous travaillerez tuera tout le monde et doit être arrêté ou suspendu, bien allez-y. Et qui prétend vouloir une poursuite maximale rigoureuse de la vérité, mais de bide des théories du complot. Mais
il a allumé tout le monde vendredi dernier à Vive, jeudi dernier à Vive.
Ah, mais il a dit OpenAI et Gemini, c'est les meilleurs sur l'IA en ce moment. Par contre, ils vous mentent. Voilà.
Réponse de Bergel à Bergel. Merci beaucoup Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. Et puis alors, on voulait dire un mot de foot pour finir. Vous savez que les championnats pro sont terminés. Ils reprendront mi-août, mais qui les diffusera? Et pour combien? On ne sait toujours pas. Et ça empêche beaucoup de clubs à l'heure actuelle de préparer leur prochain budget. Régine Ralèche.
Le compte à rebours est lancé. Le 15 juin, la DNCG, le gendarme financier du foot, examinera les budgets des clubs de Ligue 1 pour la saison prochaine. Mais ce n'est pas une mince affaire. En effet, la Ligue de football professionnelle n'a toujours pas trouvé de diffuseur pour acheter les droits TV sur la période 2024-2029, un élément capital pour élaborer les budgets. À la suite d'un appel d'offres infructueux, en octobre dernier, le président de la LFP négocie avec les principaux acteurs du marché télévisuel comme Canal+, Amazon ou encore DAZN pour décrocher les meilleurs contrats. Pour éviter la panique, Jean-Marc Micheler, le président de la DNCG, a envoyé un courrier au club leur demandant de rester prudent sur l'élaboration de leur budget. Il préconise également de partir sur une base de 663 millions d'euros, montant des droits TV actuels, pour préparer le budget de la saison prochaine. Le gendarme financier rappelle aussi que plus d'un joueur sur trois arrive en fin de contrat, l'occasion de renégocier de nouveaux contrats et de calibrer correctement les masses salariales avant le début du mercato.
Voilà, 663 millions d'euros, est-ce que c'est pas un petit peu ambitieux? On verra ça bien sûr. Vous avez des clubs, il faut le rappeler, qui dépendent à 70%, voire plus de 70% des droits TV. Donc on comprend un petit peu l'expectative dans laquelle se trouvent certains patrons de clubs aujourd'hui. 19h11, sur ce, on retourne sur les marchés. Bonsoir Aude-Car Sulek.
Bonsoir.
On rappelle que Wall Street est fermée aujourd'hui, c'est le Memorial Day. À Paris, on a terminé en hausse ce soir pour débuter la semaine. Hein.
Et oui, et la seule séance boursière était en Europe continentale, hein, parce que même Londres était fermée à cause du Spring Bank Day. On est monté, cela dit, de 0,4% à Paris. Après deux reculs hebdomadaires, on avait perdu 0,9% la semaine dernière à Paris. Très peu de volume, peu d'initiatives quand même. Pas grand-chose qui a animé notre journée. Alors si la confirmation, une fois de plus, hein, que la BCE se dirigeait vers une baisse de taux la semaine prochaine, les conditions sont réunies. Philippe Lane qui parlait dans le FT aujourd'hui, hein, le chef économiste de la BCE. Et dans un journal allemand, le gouverneur de la Banque de France a lui on a remis une couche, hein. Il a dit qu'on avait de la marge pour baisser les taux et atteindre le taux neutre. Sous-entendu, on peut baisser plusieurs fois, hein, d'ici à la fin de l'année, dit François Villeroy de Gallo. Voilà qui nous a mis de bonne humeur sur les marchés en l'absence de grosses actualités macroéconomiques. Pas beaucoup d'actualités d'entreprise non plus. Allez-y, l'augmentation de capital qui a été réalisée, hein, du côté d'Alstom, la valeur qui prend 5,5% ce soir. Les investisseurs espèrent, hein, que c'est la dernière, en tout cas, s'est passée. Et donc, 8132 points pour le CAC 40 ce soir.
Merci beaucoup, Aude-Car Sulek, avec nous ce soir sur BFM Business. 19h12, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov, avec nos experts. De quoi est-ce qu'on parle ce soir? Évidemment, vous voyez venir, de la réforme de l'assurance chômage, la cinquième depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et puis, Emmanuel Macron, justement, qui est en visite en Allemagne. Première visite d'un chef d'État français, visite officielle depuis 24 ans et Jacques Chirac en l'an 2000. Tout ça entre autres jusqu'à 20h. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h16, on est reparti jusqu'à 20h sur BFM Business. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir à tous.
Bonsoir. Et nos Raphaël Nadal a perdu, je le dis, comme ça vous n'avez pas besoin d'aller chez les concurrents, vous pouvez rester avec nous, vous voyez, suivre nos débats jusqu'à 20h. Bah oui.
Alors un petit mot peut-être,
parce
que je sens que ça vous tient à cœur.
L'audience va s'effondrer, oui. France Télévisions va perdre de l'argent, les annonceurs vont fuir sur d'autres
chaînes. Et tant mieux, comme ça les gens regarderont BFM Business, Jackie.
Regardons, écouteront BFM Business. Jackie Isabello, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact, bonsoir Jackie. Bruno Coquet, revenu, rebonsoir Bruno. Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE et c'est quasiment une première.
Le seul et l'unique.
C'est pas son heure, Emmanuel Lechypre.
Oui, c'est vrai que c'est pas l'heure habituelle.
C'est pas son heure habituelle, Emmanuel Lechypre est avec nous. Bonsoir mon cher Emmanuel.
Bonsoir.
Donc, dans l'actualité, évidemment ce soir, il y a cette réforme de l'assurance chômage sans transition avec Raphaël Nadal, dont on connaissait les grandes lignes, mais que Gabriel Attal a donc détaillé hier, durcissement des conditions d'accès et puis évolution des règles, entre autres pour les seniors, bien sûr.
Oui, évidemment, depuis hier soir, après Gabriel Attal, tous les ministres ont fait le service après-vente, vous l'imaginez, de cette cinquième réforme depuis 2017. Écoutez Catherine Vautrin, qui était ce matin sur BFM TV.
Vous savez, je crois qu'on va déjà reprendre les éléments de contexte, parce que depuis 2017, une chose a changé, c'est la fin du chômage de masse. Quand Emmanuel Macron est élu président de la République, il y a 10% de taux de chômage et le chômage de masse est endémique. Aujourd'hui, 2024, 2,5 millions de Français ont retrouvé le chemin de l'emploi, ont retrouvé un emploi, ont retrouvé une vie personnelle et professionnelle. Et donc, à partir de là, le sujet qui se pose, c'est de savoir d'une part, que devons-nous faire pour permettre à celles et ceux qui sont encore en recherche d'emploi d'aller vers l'emploi, et d'autre part, comment répondons-nous aux besoins des entreprises ? Parce que notre pays a besoin de femmes et d'hommes qui s'engagent et qui aillent travailler dans ces entreprises. Aujourd'hui, nous avons près de 400 000 emplois qui ne trouvent pas preneur au moment où nous nous parlons. Mais
oui, alors sauf que ce durcissement, il intervient au moment où le marché de l'emploi lui-même se durcit et se complexifie. Quid du principe de contrat cyclicité qui était tant vendu par le gouvernement ? Et puis, pourquoi annoncer cette réforme alors que l'impact des deux dernières n'a pas encore été mesuré ? Il n'y a pas un problème à la fois de méthode de cohérence et de temporalité, Emmanuel Lechypre ?
Sur l'aspect conjoncture, parce qu'après je laisserai le grand spécialiste français qui est Bruno, vous détailler tout ça. La réalité, c'est que le marché du travail, il se porte pas si mal, hein, quand vous regardez les chiffres.
On a quand même une courbe du chômage qui repart doucement.
À part la petite hausse du chômage qu'on a constaté en début d'année, si vous prenez tous les autres indicateurs, que ce soit le chômage de longue durée, ça n'augmente pas. Si vous prenez le travail à temps complet, c'est plutôt bien. Le travail en CDI, c'est plutôt bien. Si vous prenez le taux d'emploi, qui reste pour moi le meilleur indicateur de la santé économique d'un pays, vous voyez qu'on n'a jamais été aussi élevé, etc. Et tout ça dans un contexte de croissance faible, avec toujours autant d'entreprises qui disent qu'elles ont des difficultés à recruter. C'est pour ça qu'on ne peut pas reprocher au gouvernement de faire cette réforme dans un contexte qui reste quand même assez porteur. Et on peut se dire que si la conjoncture s'améliore, comme ça semble être le cas au vu des indicateurs de conjoncture, on peut penser que bon, le problème de la tenue du marché du travail n'en est pas vraiment un. Après, c'est vrai que on a quand même une troisième réforme qui est faite alors que les deux autres ont produit des résultats qu'on ne connaît pas très bien.
Ah, contrairement à ce que disait Gabriel Attal hier.
Oui, alors sur l'expérience française, manifestement, il y a juste l'estimation de la DARES de février, mais on ne sait pas trop si c'est les effets conjoncturels ou les effets de la réforme. Et puis il y a ce que disent toutes les études internationales, grosso modo, que quand vous réduisez la durée d'indemnisation, ça a tendance aussi à réduire la durée du chômage. Mais c'est vrai qu'il est très affirmatif. Et pour terminer, rappelons quand même les ordres de grandeur. Quand on dit qu'on veut remettre 90 000 chômeurs...
C'est rikiki.
C'est 0,3 points de taux de chômage.
Voilà.
Donc c'est ridicule. On est à 7,4 et on veut aller à 5. Donc encore une fois, ça montre
bien
que...
Non mais c'est pas fait pour ça.
C'est une partie de la solution, mais c'est loin d'être toute la solution.
Non mais cette réforme, Bruno Coquet, elle a été faite parce qu'elle va rapporter 3,6 milliards d'euros et qu'on a besoin d'argent.
Ah ben oui, c'est la seule raison. Le reste, c'est de l'habillage. La plupart des réformes qui ont été faites, enfin pas la plupart, 100% des réformes qui ont été faites depuis 2018 ont un objectif budgétaire. L'assurance chômage n'est pas en déficit, jamais depuis 1997.
Il s'est pas trop épanché sur les 3,6 milliards d'ailleurs hier soir, Gabriel Attal.
Non. Il s'est pas épanché parce qu'en fait je pense que c'est sous-estimé. Quand on regarde les chiffrages qu'a sorti l'UNEDIC la semaine dernière, alors c'est toujours un peu difficile parce que c'est pas linéaire comme on dit, mais globalement ce qui est annoncé vaut plus du double. En
fait. Mais une question Bruno quand même, c'est quoi la tuyauterie qui fait que l'argent il va retomber dans les caisses de l'État ?
Alors, la tuyauterie, c'est que, en fait, il y a deux moyens. Alors, ils sont en PLFSS, en projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'État, maintenant, prélève tout. Hein, c'est plus l'UNEDIC qui prélève. Ouais. Et donc, il prélève la CSG. Et donc, on reverse une part de CSG de manière discrétionnaire. Hein. Aujourd'hui, c'est 1,47 point de CSG activité qui est reversé à l'UNEDIC, mais ça peut être moins. Et d'ailleurs, ça a été rectifié pour 2023. Et puis l'autre partie, ce sont les allègements de cotisations sociales pour les employeurs. Et donc, puisque la cotisation chômage est allégée depuis qu'on a changé le CICE et qu'on l'a mis en allègement de charges, et donc du coup, il suffit de moins compenser. Et donc, du coup, si tu compenses moins la cotisation, l'UNEDIC reçoit moins.
Mais alors, attendez, parce que là,
vis-à-vis de certains opérateurs de retraite, en lui disant, si vous ne donnez pas un peu d'argent, eh bien, les fameuses compensations qu'on opère aussi auprès des régimes de retraite, on les réduirait.
Mais juste, Jackie, quand même, ce que vous disiez, Bruno, c'est gigantesque. Vous êtes en train de dire que cette troisième réforme de l'assurance chômage, elle ne va pas rapporter 3 milliards d'euros, mais 6 milliards d'euros.
Si on regarde les chiffrages de l'UNEDIC de la semaine dernière, qui ont été présentés aux partenaires sociaux, leur étude d'impact de ce qui était annoncé, on voit que la réduction de 24 à 20 mois, qui touche tout le monde, hein, pas seulement les gens qui ont des contrats courts, rien que ça, ça rapporte plus de 5 milliards, même dans l'hypothèse la plus favorable envisagée par l'UNEDIC.
Si c'est ça, Jackie, ça conforte l'idée des syndicats selon lesquels on est une fois de plus sur une réforme purement budgétaire et rien d'autre finalement.
C'est assez fou. En France, quand on arrive à faire des économies, alors qu'on n'a pas un budget qui est à l'équilibre depuis plus de 50 ans, eh bien on en a honte. C'est assez incroyable. Et si ça rapporte 6 milliards d'euros, ben tant mieux. Moi, je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'essayer quand même de toujours revenir sur ce qui est le positionnement de certains syndicats qui disent la durée d'indemnisation ne joue pas sur la vitesse de retour à l'emploi.
Oui, on en a eu beaucoup sur ce plateau.
Je veux dire, Pierre Cahuc a encore une fois redonné toutes les sources de tous les chercheurs qui ont écrit là-dessus. La jeune femme dont je ne donne pas le nom, puisque c'est mon extra time tout à l'heure, qui est une spécialiste du travail et qui vient de conquérir le prix de la jeune économiste 2024, ne dit pas autre chose. Donc, qu'on puisse une nouvelle fois essayer de démontrer que ce premier point-là, on sait très bien que les transitions de l'emploi vers le chômage, elles sont impactées par cette durée au-delà de laquelle on peut bénéficier de droits. Hein, le nombre de quand on passe de 6 mois à 4 mois, le nombre de CDD de 4 mois augmente. Bon, de dire que les retraités sont mis au chômage par l'intermédiaire de l'UNEDIC et notamment dans les grandes entreprises, c'est une banalité. On peut même plus dire ça ici tellement ça a l'air d'être un lieu commun. Et puis dernier point, on dit souvent ailleurs ils font pas ça. Ben si, ceux qui se portent mieux en Allemagne, en Autriche, en Suisse, etc., eh bien, ils ont des conditions un peu plus dures. Et après, je pense que le dernier point, c'est de dire qu'il faut sortir de cette espèce de piège rhétorique qui consiste à dire que si jamais on touche ces bornes, c'est parce que les gens sont des feignants. Mais c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. On n'a jamais dit que les gens étaient feignants. Moi, j'étais administrateur de Pôle emploi à l'époque où Jean Bassère avait fait un gros travail justement pour garder ceux qui trichaient. Ceux qui trichaient, mais c'était ridicule. Ouais. Et on ne pouvait même pas dire que c'était de la triche. C'était parfois un manque d'information. Donc les gens ne trichent pas. Après, eh bien...
Ah, t'as quand même France Travail qui te dit que quand ils ont contrôlé les chômeurs, t'en as à peu près 17%.
Non, mais c'est ciblé. On était à 12%.
Ah oui, c'est pas aléatoire, c'est ciblé.
Et c'était donc même pas de la triche.
Ça veut dire quoi, c'est ciblé, Bruno?
C'est ciblé, ça veut dire qu'à peu près la moitié de ces 17% sont sur dénonciation. Et une autre moitié sont parce que, à leur profil, ce qu'on a pu repérer de leur attitude de recherche d'emploi, on pense qu'ils fraudent. Mais c'est pas un aléa. Si on prend ce qui est un contrôle aléatoire, Jackie a raison, il est epsilonesque, il est de l'ordre de 3% sur l'ensemble des chômeurs. Et d'autant plus faible que les gens sont bien indemnisés. Il faut avoir ça en tête aussi. Hein. D'ailleurs, je vais retirer le fil de ce que vient de dire Jackie. Donc là, on a un comportement marginal de fraude. Lorsqu'on a un comportement marginal, on ne change pas la règle moyenne pour contrôler un comportement marginal, quelle que soit l'assurance dans laquelle on se situe, on ne peut pas faire ça. Les papiers de la littérature économique, tous ceux qu'invoque Pierre Cahuc dans le dernier papier qu'il a fait dans Les Échos, tous sont basés là-dessus. C'est-à-dire, la littérature économique, elle est microéconomique en ce moment, et elle est basée essentiellement sur la mise en évidence de comportements à la marge qui existent, qui sont parfois pervers, parfois pas, mais par exemple, on dit les gens reprennent un emploi juste avant leur l'échéance de leurs droits. Il faut voir que c'est un tout petit peu des gens, et la plupart a repris un emploi avant. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose... même pas, mais et la deuxième chose, c'est que si on dit on a exclu tous les autres parce qu'en fait l'équation marchait pas, si on dit la règle qu'on en déduit, c'est-à-dire on va abaisser leurs droits parce qu'ils retourneront plus vite à l'emploi, et on l'applique à tout le monde, elle est inappropriée, et cette règle elle est sous-optimale, hein, comme on dit, et donc du coup il faut se méfier de la logique qui est d'identifier un comportement marginal, d'en déduire une règle marginale et de l'appliquer au comportement moyen.
Alors donc la question qui se pose, c'est est-ce que cette nouvelle réforme, qui on le comprend bien, apporte beaucoup d'argent, est-ce qu'elle apporte en revanche des solutions pérennes au chômage de masse? Parce que quand même sur le volet social, on n'en a pas encore parlé, mais ce sont et les jeunes et les plus précaires qui vont être les premiers touchés. Les intérimaires, les saisonniers, les salariés en contrat court vont être les premiers pénalisés. C'est ce que les rapports disent.
Oui, alors bien sûr, à cause de la condition d'entrée. Mais il faut voir que quand on baisse la période de référence de 24 à 20 mois, pour tout le monde, ça a été fait de 28 à 24 mois en 2019. Et ça, du coup, on sait le voir. Et donc, ça a un impact très fort, y compris sur les gens qui ont des droits longs. Enfin, longs, 15 mois maintenant. Et donc, du coup, il faut voir que tout le monde va être impacté. Hein, et qu'un des impacts particuliers à la France, c'est que... à ce genre d'incitation qui oblige à reprendre plus vite un emploi, donc à abaisser son salaire de référence, comme on dit, le salaire d'un nouvel emploi, c'est qu'il fait perdre du capital humain. Et donc, du coup, c'est-à-dire les gens ne retrouvent pas un emploi conforme à leurs compétences. Hein, ça, c'est la règle générale. Et donc, du coup, on a d'un côté une politique où on dépense énormément pour reconstituer en permanence du capital humain, et de l'autre côté, on a une lessiveuse où on n'arrête pas de diminuer les prestations en disant « Ah bah oui, mais ils vont reprendre plus vite un emploi », ce qui est vrai, ils vont reprendre plus vite un emploi, mais pas avec des inconvénients.
Emmanuel, vous achetez ce que disait Jackie. En fait, on a honte de dire tout haut qu'on va économiser peut-être plus que 3,6 milliards, peut-être 6 milliards, comme disait Bruno. Vous achetez cette théorie, finalement. La honte de faire des économies.
Moi, je ne sais même pas s'ils sont capables de... Vu le talent qu'ils ont montré quand même sur la fin d'année pour évaluer la croissance et les rentrées fiscales, je ne suis même pas sûr que... Je pense que c'est un objectif. Je ne suis pas sûr que ce soit une estimation.
C'est un affichage aussi, Emmanuel. C'est un affichage vis-à-vis des agences de notation.
Après la question, en termes de théorie économique, oui, mais pourquoi ils n'affichent pas 6 milliards pour les agences de notation?
Alors, ce serait plus... Parce que les agences de communique, on a
parce que les syndicats vendraient la bouche, parce qu'on
n'a pas besoin de parler fort.
Politiquement, c'est plus compliqué. L'assurance chômage, c'est 45 milliards d'euros par an de recettes. Aujourd'hui, le droit commun, avec les économies qui sont réalisées, ça va être à peu près 30 milliards de dépenses.
À ce moment-là.
Donc 30% de taux de marge, hein, si on parlait CAC 40. Ouais. Et donc, du coup, c'est des super profits. Ça s'appelle des super profits. Et donc, du coup, politiquement, c'est compliqué à afficher.
Ouais, sauf que...
Bruno, si on pousse la logique, si on dit l'objectif, à la fin des fins, c'est de réduire le chômage, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de baisser les cotisations des entreprises?
C'est ce que demande la CPME qu'on a pas.
Et à partir de cette baisse des cotisations des entreprises, pensez qu'elles vont davantage embaucher.
Mais alors ça, c'est ce qui distingue la France du reste du monde, hein, c'est que on a énormément de cotisations, énormément d'allègements, énormément d'interventions de l'État, donc des béquilles partout. Le marché du travail ne fonctionne pas sans béquilles aujourd'hui. Le problème qu'on a, notre horizon, c'est d'arriver à fixer un objectif où on enlève ces béquilles, pas où on en ajoute. Et donc du coup, une façon de les enlever, c'est d'avoir des systèmes de protection sociale autofinancés. Et sur l'assurance chômage, il est surfinancé.
Baissons
le coût du travail en baissant la cotisation.
Surtout que Manu, sur le dispositif qui consiste à préserver le salaire des chômeurs les plus âgés, donc des seniors, on va les inciter à reprendre un emploi qui est moins bien payé que l'ancien emploi, au risque, évidemment, d'inciter quand même les employeurs à acheter une main-d'œuvre pas chère, financée par la collectivité.
Dans les faits, il y a des... je vais donner son nom parce que là maintenant on a trop parlé d'elle, mais Alexandra Roulet, donc il y a eu ce prestigieux prix, elle cite des références qui montrent bien que c'est pas parce qu'on joue sur la durée qu'effectivement ça impacte l'ambition de trouver un travail plus ou moins bon. Moi je voulais dire autre chose, et je parle sous le contrôle de Bruno, parce que comme le disait Emmanuel, Bruno connaît ça bien, par exemple sur le CSP.
le contrat de sécurisation professionnelle, on a cette capacité, c'est-à-dire que les salariés des grandes entreprises sont extrêmement bien financés dès lors qu'ils sont licenciés économiques. Et si jamais ils retrouvent un emploi très rapidement, eh bien, cette part d'économie, on leur en reverse une partie, et je trouve ça plutôt intéressant de dire on associe les gens vers un retour à l'emploi. C'est un contrat gagnant-gagnant. Et enfin, en France, dès que vous avez une logique comptable des choses, c'est honteux.
Mais en revanche, aucun d'entre vous n'a mentionné le fait que cette nouvelle réforme va affaiblir le paritarisme. Ça vous inquiète pas plus que ça. C'est quand même un dernier coup de marteau, on peut dire ça.
Que reste-t-il du paritarisme? Allez, 19h32 sur BFM Business.
Il reste beaucoup de choses quand même.
Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise.
BFM Business, l'info éco.
Allez, 19h32, je vous redonne les grands titres de l'actualité. Emmanuel Macron qui est en Allemagne depuis hier, qui poursuit sa visite. Il est en ex-RDA du côté de Dresde en ce moment. On va revenir bien sûr dans un instant, on est à 2 semaines évidemment des élections européennes. Ça s'agit du côté du Club Med. D'après nos informations, le numéro 2 du groupe a démissionné en fin de semaine dernière. Conséquence, le patron Henri Giscard d'Estaing va se retrouver un peu seul désormais face à son actionnaire chinois Fosun, qui cherche apparemment à intervenir de manière de plus en plus pressante dans la gestion du groupe. Si le sujet vous intéresse, vous allez lire les informations de Mathieu Pechberti sur notre site bfmbusiness.com. Bonne journée pour Elon Musk, qui a annoncé aujourd'hui qu'il avait réussi à lever 6 milliards de dollars supplémentaires de nouveaux financements pour sa start-up dédiée à l'intelligence artificielle. Et puis la Chine qui injecte l'équivalent de 40 milliards de dollars pour redonner un coup de fouet à sa industrie des semi-conducteurs. Et surtout la faire monter en gamme. On sait à quel point la rivalité est forte sur ce sujet avec les Américains. 19h33, on revient dans un instant bien sûr avec nos experts, on est là jusqu'à 20h.
On est en direct en effet jusqu'à 20h et je précise que la jeune économiste dont on parlait à l'instant, Alexandra Roulet, sera justement l'invitée de Laure Closier mercredi à 8h15.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, les experts du soir sont là.
Et ils jacassent.
Non mais quand on a Bruno Coquet, on lui pose plein de questions.
Surtout sur le sujet des retraites et de l'assurance chômage.
Il a toutes les réponses.
Pour ceux qui parlent anglais.
Jacques Isabello et Bruno Coquet sont là. Et puis bien sûr, le grand Guillaume Paul. Bon, on va parler d'Europe maintenant. Vous savez que tous les lundis jusqu'à l'élection du 9 juin, ça arrive bientôt, on évoque un thème présent ou trop absent de la campagne des élections européennes. Et aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à ce qu'on appelle l'Europe sociale.
Oui, depuis ce matin. Alors là, thème complètement absent des écrans radars. Pour vous poser la question, est-ce que l'Europe sociale, pour vous, c'est un concept ou pas énormément ou pas du tout? Il y a eu ces dernières années quelques législations qui ont permis de préserver certaines garanties des travailleurs, notamment les plus précaires. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de filet de protection mis en place au niveau européen? Est-ce que ça vous parle, l'Europe sociale?
Ah bah l'Europe sociale, je pense que si vous demandez aux Français ce que c'est que l'Europe sociale, ils vont vous parler du plombier polonais et des travailleurs détachés. Objectivement.
Cette directive, il y a 15-20 ans, Bolkenstein.
Non, je pense que c'est... Alors, c'est faire abstraction de tout un tas de dispositifs qui ont été faits aussi, notamment pour atténuer le travail détaché, etc. Mais la réalité, c'est que je pense que c'est la première chose qui viendra et qu'on n'en ressortira pas les aspects positifs.
On a quand même un socle de droits sociaux aujourd'hui en Europe grâce à cette Europe sociale.
Alors ça, c'est l'Europe sociale minimale. Mais le point, c'est qu'il faut revenir au traité de Rome. Ouais. Donc dans le traité de Rome, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que 3 présidents, 2 majestés, une altesse royale s'assignent comme but essentiel de contribuer à l'amélioration constante du niveau de vie et d'emploi de leur peuple. Oui. C'est une des premières phrases du traité de Rome. Et donc, à partir de là, c'est l'objectif. Tout le reste n'est que moyen. En particulier tous les leviers économiques, etc. Et donc il se trouve que on s'est concentré sur les moyens pour arriver à l'objectif. Mais en route, à chaque fois, on perd de vue l'objectif. On ne parle pas d'Europe sociale dans cette campagne électorale, c'est typique. Mais elle revient se rappeler au gouvernement. Ouais. Alors le traité est émaillé de dispositifs sur l'Europe sociale, de procédures, de choses à faire. Il y a 15 articles dans le traité qui disent en substance...
et qui ont été introduits dans le traité de Lisbonne, qui disent que, en fait, ce qu'il faut harmoniser, c'est les conditions de production, d'une certaine manière. Et donc, il faut regarder l'économie, mais il faut aussi regarder ce qui se passe du côté des marchés du travail. Si on veut harmoniser uniquement les conditions économiques, on n'arrivera pas à du bien-être social. Et après, on a la protection sociale et ou des directives sociales. Mais entre les deux, et Emmanuel Macron l'a bien dit au discours de la Sorbonne, ce qui finance le modèle social, qui lui, il pense que c'est une ponction sur la richesse qu'on crée en Europe, mais c'est le marché du travail. Si le marché du travail ne converge pas en Europe, jamais on ne fera converger les niveaux de vie et d'emploi. Et donc, du coup, on s'en occupe plus depuis un certain nombre d'années, et on a ce socle européen des droits sociaux, puisque la Commission européenne est la horreur du vide. Et donc, du coup, là, on est dans un domaine où il y a de la subsidiarité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de se mêler des législations nationales, donc elle a fait son propre truc, donc elle fait avancer des petites choses comme elle le peut.
C'est pas un vœu pieux, ça, vouloir faire réémerger, finalement converger les salaires, rémunérations et niveaux de
vie. Régulièrement, les partenaires sociaux se réunissent au niveau européen pour traiter ce sujet. Moi, j'en parlais il n'y a pas tellement longtemps avec Jean-Claude Mailly, qui revoit ses anciens camarades, parce que régulièrement, ils se réunissent pour essayer de faire avancer ce serpent de mer.
Avec et une SMIC très grande conférence en avril dernier, d'ailleurs.
Moi, ce qui est dommage dans tout ce que je lis, encore une fois, je trouve qu'on a une vision très franco-française du social. Et je vais vous donner un exemple très précis. Par exemple, le Fonds social européen, c'est 88 milliards sur une période de 5 ou 6 ans. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur des programmes, et notamment un qui s'appelait le programme Horizon, qui finançait énormément l'accompagnement à l'entrepreneuriat. On n'en parle pas.
Ouais.
On parle pas du tout. Je veux dire, quand on parle de l'Europe sociale, c'est tout sur le travail, la formation, la réduction de la pauvreté, éventuellement le niveau. Mais par contre, tout ce que l'Europe a financé pour essayer de faire diminuer la pauvreté par l'intermédiaire d'un accompagnement et notamment de tous les réseaux qui donnaient un travail à des gens que personne ne voulait employer et qui à un moment, j'avais cette mauvaise blague qui était vraiment très mauvaise de dire avant de me suicider je vais essayer d'être entrepreneur. N'en parle absolument pas. Alors qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de millions, voire des centaines de millions, qui ont été mis un peu partout en Europe pour stimuler cet esprit.
Alors ça, Jackie, c'est un vrai problème de communication et de pédagogie. Mais il y a aussi la partie plus immergée de l'iceberg. Enfin, excusez-moi, mais quand Emmanuel, vous dites que personne ne s'en rappellera, enfin se rappellera en tout cas de ce que l'Europe a fait d'un point de vue social, en effet, parce qu'on n'en parle pas, je vous rappelle que pendant le Covid, la préservation des emplois a été quand même érigée comme priorité absolue. Et le chômage partiel, c'est 1,5 milliard d'emplois préservés.
Enfin, ça pas été, d'abord, le chômage partiel, ça n'a pas été le cas.
C'est pas l'Europe, ça.
Ça n'a pas été le cas dans toute l'Europe.
Mais ça n'a pas été le
cas dans une très grande partie de l'Europe.
Il y a largement contribué. Alors, qu'il y ait une fibre sociale en Europe qui soit bien plus développée qu'ailleurs, oui, et encore une fois, il faut rappeler... Alors, je cite Angela Merkel, parce qu'en fait, je n'ai jamais réussi à retrouver... très précisément les chiffres auxquels elle faisait référence, mais c'était quand même Angela Merkel quand elle disait...
On sait l'admiration que vous portez Angela Merkel.
Non, pas du tout, en plus.
Non, mais c'est pour ça que ça m'étonne.
C'est la confusion avec
Marc.
Ça va nous créer
la brouille franco-allemande.
Mais là-dessus, au moins, effectivement. Non, quand elle disait, grosso modo, l'Europe, c'est 7% de la population mondiale, 25% du PIB mondial et 50% des dépenses sociales mondiales, effectivement, donc on peut pas dire oui, en Europe, il y a cette fibre sociale. Mais je pense qu'objectivement, regardez encore une fois sur le plan social ce que disent les Français, ce que disent les enquêtes, ils ont l'impression qu'on a des immigrés qui rentrent de partout en Europe, que les salaires sont tirés vers le bas par la concurrence avec notamment les pays d'Europe de l'Est, etc. etc. Et je ne suis pas convaincu qu'ils fassent un bilan très positif de l'Europe sociale, même si par exemple sur le marché du travail, on arrive très bien à montrer, il y a encore une étude de France Trésor qui le montre récemment, c'est-à-dire quand on essaie de calculer en équivalent de bien-être et de consommation ce qu'a rapporté finalement le marché, le fait d'aplanir les frontières, etc. Ça a profité à ces pays qui sont des pays à niveau de vie plus bas que nous, mais ça nous a profité aussi dans la mesure où on a pu profiter de main-d'œuvre, de spécialités, etc. Donc le marché du travail européen, il a globalement quand même profité à tout le monde.
Voilà, parce
mais
que
je suis pas sûr
votre
que ce
vision,
soit le
elle est quand même assez franco-française, parce que 88% des citoyens en Europe considèrent que l'Europe sociale les concerne directement, personnellement, notamment sur les sujets de pouvoir d'achat et de bas salaires.
Oui, ça les concerne.
Là où vous avez raison. Pour cette campagne-là, par exemple, qui devrait parler de social et qui n'en parle pas?
Mais tout
qui
monde,
passe sa
tout
journée à parler de la Palestine et tout ça, alors qu'il devrait porter les sujets sociaux.
La gauche.
C'est les partis qui sont orientés à gauche et estampillés comme tel.
Oui, mais d'accord,
il y a quand même des sujets qui sont plus ou moins affiliés à certains côtés politiques. C'est vrai que la France insoumise, les représentants du Parti socialiste ne parlent pas des sujets sociaux. Après, on a un deuxième problème, et moi j'aimerais entendre certaines analyses économiques, j'ai peut-être pas toute la compétence, mais dire... Emmanuel Macron, il parle de souveraineté européenne, ce qui est très intéressant hein, par rapport à la théorie de Jean Bodin et tout ça, sur la manière dont on définit l'européen, la souveraineté au niveau de chaque État.
Ouais.
Mais l'espace économique commun... qui aujourd'hui est confronté à des grands ensembles tels que les États-Unis avec l'IRA, avec le socle chinois et d'autres, eh bien, il a trouvé une forme d'organisation où s'il produit en Roumanie, ce qui est un espace économique européen, eh bien...
Créer un déséquilibre de compétitivité.
Voilà, c'est une forme de made in Europe qui est quand même... plus intéressant pour nous que d'aller exporter, enfin en tout cas de mettre son industrie ailleurs. Comment on gère ça si on veut faire converger nos économies et qu'on veut tirer les salaires vers un but unique? C'est compliqué quand même.
Chacun tire un peu dans son sens en Europe aujourd'hui, très clairement.
Comment?
Chacun tire un petit peu dans son sens en Europe.
Oui, c'est un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique communautaire réellement sur des sujets comme ça, de marché du travail avant d'être de protection, de social pur. Il ne faut pas confondre les deux. Benoît Cœuré, dans un papier il n'y a pas longtemps dans Les Échos, disait mais il y a le modèle de la concurrence, c'est-à-dire avec un corpus commun à Bruxelles et puis après des adaptations nationales, ça fonctionne pas mal, on pourrait y réfléchir pour d'autres sujets. Typiquement, l'Europe sociale, on pourrait réfléchir les choses comme ça. Le problème, c'est que la France n'est pas aussi le meilleur pays pour proposer des choses, puisque personne ne vaut notre monnaie de protection sociale, sinon ça se saurait depuis longtemps.
Est-ce
quand
que
même.
C'est pas Emmanuel Macron, notamment, qui avait porté les fameuses idées de SMIC européen?
Non, mais la SMIC, on veut SMICardiser la France, oui, oui. Et smicardiser l'Europe. Donc il y a quand même une petite contradiction.
Et donc,
mais ils n'en ont pas voulu. Donc on a un truc flexible parce qu'il y a des tas de pays où il n'y a pas de SMIC et où ça marche très bien et où les gens vivent de leur travail sans subvention.
450 à 2450.
C'est un petit grand écart.
Demain, il y a une très bonne tribune dans Le Monde sur l'Europe sociale.
Tiens donc.
Ouais.
Non, mais alors juste parce que quand même.
Mais par quoi ?
Oui.
Ah, oui.
Ah. Oui, parce que je me suis émis, c'est mon coup de gueule avant l'heure, du fait qu'on ne parlait pas d'Europe sociale, alors qu'encore une fois, c'est le but essentiel de la Commission, de la construction européenne. Et donc, il y a un moment donné, cette masse manquante est un problème. On en dit ce qu'on veut, après,
oui.
C'est une autre histoire.
Je donne quand même juste un exemple très concret, parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais justement, si on fait le lien entre marché du travail et Europe sociale, puisqu'on a une économie qui se numérise de plus en plus, la directive sur le travail des plateformes est intéressante. Elle interdit notamment aux plateformes de renvoyer un travailleur sur la base d'une décision prise par un algorithme. Donc ça, c'est un exemple concret et c'est plutôt vachement bien.
Oui, mais la France était contre, pour faire moderne, je pense, mais c'était le seul pays qui était contre. Un grand acquis de l'Europe sociale que personne ne cite jamais, c'est l'égalité homme-femme. Oui. L'Europe a apporté énormément en poussant les pays
à
l'air de rien. Et donc, du coup, ça, c'est un vrai acquis.
C'est Jacques Delors, c'est ça, dans le dialogue social européen
C'est partout.
Mais ce qui est intéressant de ce que disait Bruno, c'est qu'au-delà, pour revenir à 57, ce qui est très important, c'est que l'Europe, dans les discours de Schuman, elle porte la notion de solidarité dans tout un tas de domaines. Et le social fait partie des sujets qui, évidemment, s'associent parfaitement avec la solidarité, si tant est qu'on soit capable de générer de la valeur avant de financer un modèle social unique.
Bien, il nous reste quelques minutes avant vos avis du soir. Pour vous demander si vous attendez quelque chose de la visite officielle d'Emmanuel Macron en Allemagne, il est à Dresde en ce moment en ex-RDA, il s'est rendu... à Dresde, où il a prononcé un discours. Alors certains ont fait le parallèle avec le discours de réconciliation, vous savez, prononcé par De Gaulle en 62 aux côtés de Konrad Adenauer. Je ne sais pas si vous achetez la parenté de pensée. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite? On est censé fixer les axes stratégiques de l'Europe pour les 5 prochaines années. Ont-ils le même agenda, ont-ils les mêmes priorités finalement pour vous?
Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a un timing un peu similaire, parce que tous les deux sont un peu en perte de vitesse sur le plan intérieur, donc ils ont quand même tout à fait intérêt à porter des sujets communs sur les grands sujets, en effet sociaux, environnementaux, à 2 semaines des élections.
Moi je pense que ce qui a fait la force de l'axe franco-allemand, c'est pas qu'on décide que statutairement c'est une visite d'État ou machin et tout, c'est la complicité qu'il y a eu entre les grands dirigeants allemands et français. Oui. Et quand vous quand Helmut Kohl, moi je l'ai rencontré après l'unification, quand il vous raconte comment ça s'est fait avec François Mitterrand, ils sont tous les deux, ils discutent, ils sont en train de regarder, finalement ils sont dans les jardins, ils se tapent dans la main en disant je te demande ça, tu me promets ça, etc. Or, il n'y a aucun point commun entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Ce sont des gens qui ne sont pas du même siècle.
Non, mais il y a des intérêts communs.
Olaf Scholz, c'est quelqu'un qui est du XXe siècle, profondément, qui ne comprend pas le XXIe siècle.
Mais ce qui est
Emmanuel Macron est peut-être un peu trop...
Volubile, et en fait, c'est un protestant.
Oui, vibrillonnant par rapport à l'ancien. Mais Olaf Scholz, c'est quelqu'un d'un autre temps, donc avec qui ça n'est pas possible. Enfin, il n'y a jamais eu autant de vision orthogonale sur
oui, en même temps, sur l'union des marchés de capitaux, finalement, l'Allemagne converge. Sur l'union des marchés de capitaux, l'Allemagne converge, enfin. Alors qu'elle était plutôt... Non,
mais là, je rejoins Emmanuel, mais je vous trouve un peu sévère. Macron, c'est Jupiter, il fait ce qu'il veut tout seul.
Les Allemands aussi, hein, Jacques.
Non, justement.
En matière de politique étrangère, il y a le Bundestag.
Ils font cavalier seul sur globalement tout le sujet.
Ils ont un contrat de coalition.
Ah oui, oui.
Ils ont des régions qui sont extrêmement puissantes. Donc Olaf Scholz, il ne peut pas sortir de sa coalition comme nous, on le fait. Après, ce qui est intéressant dans votre question, c'est que finalement, on voit les choses comme nous, les Français, on aimerait construire l'Europe. Nous, c'est des grands programmes industriels portés par des hauts fonctionnaires qui sont déployés. Les Allemands, c'est l'ordolibéralisme. C'est-à-dire qu'ils font confiance à leurs entreprises, à leurs bureaux d'études, à leurs bureaux d'ingénieurs pour dire il y a un marché ici et on va partir par le bas pour construire un modèle industriel. Et finalement, la manière dont on évalue la construction du couple franco-allemand, ben vous voyez, on le fait. Nous, on le voit allemand en disant il faut relancer, il faut faire ceci, cela. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus d'accord sur rien du tout, quand même. Modèle d'exportation,
modèle énergétique.
Énergie, la défense, l'orthodoxie budgétaire, le modèle social. Enfin, on n'est plus du tout d'accord. Et en plus, sur le foot, on n'a jamais été d'accord et on sait pourquoi.
Non, mais d'accord, mais donc, sauf que.
Il ne nous reste plus que de grandes pétitions.
Sauf qu'on a une productivité qui baisse en Europe alors que ça repart en flèche aux États-Unis et que donc on a besoin de se mettre d'accord et on a des intérêts en commun.
Bruno. Oui, ça me semble évident. Enfin, moi, je suis pro-européen et parce que je pense qu'effectivement, on est plus forts ensemble. Hein. Après ça,
oui, mais il y a de moins en moins. Alors, attends, Bruno. Il y a de plus en plus de sujets qu'on ne peut pas résoudre tout seul. Mais il y en a de moins en moins qu'on a envie de résoudre ensemble, quand même. Alors,
oui, mais en même temps, il y a un changement des rapports de force à l'intérieur de l'Europe. Le couple franco-allemand ne pèse plus aussi lourd que ce qui pesait. Les pays fondateurs, même chose. Et puis, il y a l'Est global. Hein, on a notre petit Sud global, nous, à l'intérieur de l'Europe. Donc, il y a ça. Mais pour l'Allemagne, moi, j'ai juste un petit point personnel. J'ai occupé des fonctions à Bruxelles qui faisaient que, bon, il y avait des tas de gens dans des tas de pays qui cherchaient à créer du lien, à créer de l'échange, etc. Pendant mes 2 ans de mandat, jamais l'Allemagne c'est venu de l'Allemagne, c'est venu de petits pays avec peu de moyens, de grands pays avec beaucoup de moyens, mais jamais d'Allemagne, alors que j'ai vécu une présidence allemande et donc du coup de l'Union européenne, et donc un semestre européen, et donc du coup ça m'a toujours frappé. En même temps, on a nos conseils des ministres franco-allemands, les trucs, tas de trucs bureaucratiques. Après ça, on connaît des gens. Mais le lien en deçà des administrations, en deçà des gouvernants, enfin, je ne sais pas comment les appeler, mais des chefs d'État, eh bien, du coup, il existe assez peu. Et donc, moi, ça m'a toujours frappé dans le lien franco-allemand.
Enfin, là, on a quand même un Emmanuel Macron qui est parti en Allemagne pour défendre les éléments de son discours de la Sorbonne, avec pour priorité c'est pas que ça, c'est aussi dire que l'Europe doit mettre en place son protectionnisme à son échelle face aux géants que sont les États-Unis et la Chine.
Personne ne veut du modèle français et nous-mêmes, on n'a jamais défini nos lignes rouges.
Mais non, mais vous savez que
et donc du coup, qu'est-ce qu'on vend à Bruxelles?
C'est le moment de les définir.
Donc les Français et les Allemands sont, nous sommes condamnés à nous entendre avec nos partenaires allemands et à avancer avec eux. On est d'accord.
Je résiste pas à vous citer cette phrase merveilleuse du grand journaliste économique
qui va nous plomber l'ambiance.
Qui était pas du tout qui était Jean Boissonnat.
Ah, j'en étais sûr.
Et qui connaissait très bien les deux pays, les deux systèmes économiques, et qui disait en fait, les Allemands aiment les Français alors que les Français voudraient qu'on les admire. Et les Français admirent les Allemands alors que les Allemands voudraient qu'on les aime.
Ah, c'est voilà. Pas mal.
Est-ce qu'ils voudraient vraiment qu'on les aime?
Ah, je crois que oui.
Ah oui.
Et ça n'a pas pris une ride, finalement?
Non, absolument.
Je devais l'histoire. Ouais, allez, trois minutes, l'extra time, comme tous les soirs sur BFM Business. Vos coups de cœur ou coups de gueule sur 30 secondes, c'est la règle impitoyable de cette émission. Bah, Jackie a déjà un petit peu vendu la mèche, mais on vous écoute, Jackie, quand même.
Mais oui, écoutez, moi, quand il y a une femme jeune économiste, j'aime beaucoup, parce que comme j'ai travaillé pour Agnès Benassi-Carré, qui a eu le prix dans l'histoire de cette distinction, je trouve ça très très bien. Donc, elle travaille, voilà, sur les inégalités entre hommes et femmes, et puis elle a abordé le sujet de manière assez marrante, de ce que j'ai pu lire de sa carrière sur l'impact que pouvaient avoir les trajets domicile-travail sur ces inégalités. Et puis, bah, elle a déjà de belles cordes à son arc. Donc voilà, je salue.
Et on l'a dit, elle sera dans la matinale sur BFM Business mercredi.
Les gens l'auraient parlé avant.
Le coup de cœur ce soir de Jackie. Bruno, qui a tellement parlé de l'assurance chômage qu'il avait oublié l'extra time. Dites-nous.
Non, ben moi, bon, je vais parler, on en a déjà parlé, mais de Raphaël Nadal, mais pas pour rendre hommage à ses résultats, qui évidemment, hein, je pense que tout le monde peut dire ça, mais moi je pense que derrière ça il y a un mental énorme, et donc moi j'admire énormément le mental des gens, et donc du coup dans Raphaël Nadal, revenir quand même 13 fois et puis s'en sortir 13 fois écraser tout le monde, en plus à un âge où quand même c'est difficile de courir un court en plein soleil, et puis de taper comme ça, donc du coup voilà, un hommage à Raphaël Nadal.
Eh bien la transition est toute trouvée.
Est-ce qu'il ne faut pas savoir s'arrêter quand même?
Bruno, il a gagné.
Ah bah alors justement, attendez,
fois.
Parce que Manu, j'allais dire un mental d'acier comme Emmanuel Bruno.
Non, moi j'ai tout sauf un mental d'acier.
14 fois, pardon. Oui, 14 fois, pardon.
J'ai tout sauf un mental d'acier.
Emmanuel Le Chip, c'est à vous.
Et moi je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. C'est pour ce nouveau label qui va sortir sur les produits de l'alimentation industrielle. Vous savez, Origine Info, là où on nous dit que voilà, il y aura. On saura d'où viennent.
La tomate.
D'où viennent de quel pays viennent les matières premières qui sont utilisées.
Bah, c'est bien, non?
Oui, alors c'est bien, mais je me dis. Finalement, c'est pas un, c'est pas obligatoire. Deux, est-ce que c'est pas encore les entreprises françaises uniquement qu'on va plomber avec ça? Et puis trois, il y a plus de 80 labels aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut être sorti de Polytechnique pour faire ses courses maintenant. Donc est-ce que, enfin franchement.
Alors sinon, il y a une app qui s'appelle Yuka et qui est très simple et qui vous dit.
Mais alors ça, on pourrait en parler aussi.
Oui, Origine UE, on l'a déjà fait.
On pourrait en parler de ce genre d'appli.
Continuez à acheter du transformé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, finalement, c'est.
Mais moi, j'en achète pas, donc.
Bon, ben voilà.
Ben non, continuez à aller sur votre petit marché local.
J'ai plus tous mes petits légumes.
Du producteur au consommateur.
Ah ouais.
De la fourche à la fourchette.
Exactement.
C'est pas mal.
Ça, c'est l'Europe.
Merci, messieurs, d'être venus ce soir. Emmanuel Le Chip pour BFM Business. Jackie Isabello, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Et Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Merci. À très vite pour de nouvelles aventures. 19h55, c'est fini.
Oui, c'est terminé. C'est passé très vite, trop vite. Mais le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com, en replay, en podcast. Tout ce que vous voulez. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir.
Bien sûr qu'on revient demain soir. 18h, même heure, même endroit. Dans un instant, Tekkenco, François Sorel et toute l'équipe, bien sûr. Bonne soirée.
À demain.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.